You know, sometimes we're not prepared for adversity. When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it when it comes up. Sometimes we don't know just what to do when adversity takes over. And I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zawinul, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called Mercy, Mercy, Mercy.
Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane, bonsoir Alexandre. On va laisser le temps aux auditeurs d'arriver. En attendant, je vais commencer à lire les petites règles habituelles. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir. Bonsoir Cali, bonsoir Alexandre.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir. Donc on va laisser les gens arriver. Je ne peux pas parce que là je suis sur le compte de démocratie, donc invité du monde. Donc j'invite ceux qui sont déjà là à partager bien sûr ce space, à inviter leur propre communauté de façon à ce qu'on puisse avoir une interactivité la plus agréable qui soit, avec un petit peu de monde pour pouvoir s'entretenir avec Alexandre. Donc on va patienter encore, il est tout juste deux. 21h. On va bien évidemment vous rappeler les règles de bienséance sur ce space, comment celui-ci va se dérouler. On vous présentera bien évidemment notre invité, quand bien même celui-ci ne manque pas de notoriété. Et ensuite, nous allons pouvoir commencer justement à nous entretenir avec lui de façon à comprendre un petit peu mieux qui il est et comment est-ce qu'il va essayer de son côté et avec nous tous de promouvoir le principe de démocratie directe. Donc, pour ce qui est des règles, ce sont toujours les mêmes. La sexualité, la santé, la religion le sont appelés à rester dans la sphère privée, la polémique stérile, les attaques personnelles et les procès d'intention n'ont pas leur place dans cette agora. Les parler fort, les insultes, les propos répréhensibles légalement, les trolls sont immédiatement sanctionnés par une exclusion. Aucune censure d'expression ne sera néanmoins pratiquée dans le cadre de la législation en cours. L'opposition bienveillante, la critique constructive et respectueuse, la divergence d'opinion sont encouragées. Le savoir-être et le savoir-vivre doivent être au service du savoir-faire. La citoyenneté est un état transversal de notre humanité que nous devons développer. Ce space est prévu pour une durée maximale de 2 heures, il me semble. Donc nous préconisons à l'invité, bien entendu, d'épingler les ressources éventuelles qu'il aurait à nous partager en haut de ce space. Si jamais, Alexandre, tu as des difficultés pour cela, tu nous les communiques en message privé et on s'occupera, Stéphane et moi, de les épingler en haut. Nous invitons tout le monde à se munir notre physique ou numérique pour préparer vos questions et vos interventions de manière à ce qu'elles soient le plus efficaces possible. Nous vous demandons d'éteindre votre micro lorsque vous ne parlez pas et que vous êtes en intervenant pour que tout ça soit le plus clair possible. On ne coupe pas la parole aux intervenants de façon déjà à ce que ce soit le plus audible possible pour tout le monde ici, que ce soit vivial, mais aussi parce que nous faisons des retranscriptions des verbatims de ces spaces pour pouvoir les mettre à disposition et que, bien entendu, il est plus facile de faire ces retranscriptions quand les discussions sont claires et sans que chacun ne se parle les uns sur les autres. Et bien sûr, vous demandez à venir poser vos questions en demandant à être intervenant. On vous demande également de lever la petite mimine pour organiser les tours de parole et permettre la circulation de cette parole dans les meilleures conditions. Si jamais vous étiez un petit peu trop long ou hors sujet, une petite cloche se ferait retentir de manière à vous indiquer qu'il va falloir soit recentrer le sujet, soit tout simplement écourter l'intervention. Je vais repréciser que, bien entendu, on vous engage, on vous demande de faire preuve d'une certaine tolérance concernant l'animation de ce space, car comme le dit l'adage, la critique est aisée mais l'art est difficile, et si ce space a pour but de promouvoir l'avènement d'une véritable démocratie en France, en l'occurrence, nous sommes que deux à l'avoir organisé et nous n'avons aucune prétention quant au fait que ce space soit démocratique. Donc à partir de là, bien entendu, nous sommes à même d'entendre vos conseils, vos jugements, plutôt en message privé, parce que c'est bien plus constructif et que ça n'a pas grand intérêt de les exposer à la vue de tous ici. Nous ne les contesterons pas, nous en prendrons bonne note et nous ferons en sorte d'essayer de réguler ce qui ne va pas, mais néanmoins, on vous engage, bien entendu, eh bien, à ouvrir vous-même vos espaces de discussion, que ce soit sur X à travers des spaces ou autres. Tout simplement, plus nous serons nombreux à faire cela, plus le message sera propagé. Et surtout, il vous permettra de mettre en pratique ce que vous espériez trouver ici. Pour ce qui est maintenant, bien entendu, de la présentation de notre invité, ce qui est le plus important, puisque les règles sont dites, nous recevons ce soir Alexandre Langlois. Alexandre Langlois, diplômé en droit et sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, est une figure incontournable de l'opposition au sein de l'Alternative en France. Il est connu pour ses multiples implications en tant que policier syndicaliste, homme politique, écrivain et chroniqueur consultant au sein de Tocsin Média, entre autres. Puisque, bien entendu, à partir de ce moment-là, on a la porte qui s'ouvre pour bien d'autres médias, quand bien même ne serait-il qu'alternatif. Comme policier syndicaliste à Paris, il a travaillé comme gardien de la paix à la police des frontières, puis au renseignement territorial des Yvelines. Il a été membre du syndicat Alliance avant de rejoindre la CGT et ensuite cofondé le syndicat Vigie, au sein duquel il a exercé les fonctions de secrétaire général. Suspendu de ses fonctions de policier en 2019 pour des motifs liés à ses activités syndicales et ses critiques envers l'organisation et les consignes gouvernementales de la police, il est réhabilité en 2023 par la justice. Comme homme politique, il s'est présenté aux élections législatives de 2017 sous la bannière de la France insoumise. Il a été candidat lors des élections municipales de 2020 à Malensac dans le Morbihan, devenant conseiller municipal minoritaire. En 2021, il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022 sous l'étiquette d'un mouvement courant citoyen appelé Refondation 2022. Puis, faute de parrainage, il soutient alors la candidature du souverainiste Georges Kuzmanovic. Présenté comme quelqu'un ni de droite ni de gauche, visant à rassembler les abstentionnistes et les gilets jaunes, il est porteur de projets de réforme de l'administration française et de la défense des libertés individuelles. Alexandre Langlois est également un auteur sans concession, dont le dernier livre « Essayez la démocratie » au bal masqué de la Macronie en 2021 et son avant-dernier « L'ennemi de l'intérieur ». Dérive et dysfonctionnement de la police nationale. En 2019, les deux chez Talma Studio ont fait de lui un spécialiste croisé de l'administration policière et de la démocratie. Bonsoir Alexandre, aurais-je fait des erreurs ou aurais-je oublié quelques éléments que tu souhaiterais apporter en précision ?
Bonsoir, non, très belle présentation, très fouillée, j'aurais même oublié certains passages, donc tu vois, c'est parfait.
Alors, le mérite revient à Stéphane, c'est lui le rédacteur, je ne suis que l'interprète.
Bah, bravo Stéphane.
Donc, merci, bonsoir Alexandre. Très heureux et très honoré de pouvoir avoir quelqu'un comme toi dans nos émissions pour tes engagements et surtout pour ton humanité constante à travers tes prises de position. Dans un monde où, comme aujourd'hui, on nous apprend que Gaza va devenir une riviera bientôt où nos dirigeants sont complètement en roue libre et de plus en plus, sans aucun filtre, il est toujours... très plaisant et de pouvoir apprécier quelqu'un comme toi qui nous ramène quotidiennement dans tes interventions, tes posts et à chaque fois que tu fais des commentaires dans différentes émissions en tant qu'éditorialiste, tu nous ramènes toujours à des vérités essentielles avec des prises de position que nous partageons tous pour la plupart et je tenais à te remercier chaleureusement pour avoir accepté cette invitation.
Merci de m'avoir invité.
Bon, et ben maintenant que la présentation et que les gentillesses habituelles ont été formulées, déjà, encore une fois, on va vous inviter, tous ceux qui sont présents, à partager le space pour en informer vos abonnés et votre communauté éventuelle. Et on va commencer à pouvoir vous recevoir en intervenant pour poser vos questions à Alexandre. Stéphane, peut-être as-tu déjà, toi, quelques premières questions à aborder. Si ce n'est le cas, je m'y plierai.
Oui, je voulais simplement poser une petite question à Alexandre au regard de son parcours. On a beaucoup oublié que historiquement, il était très très proche des Gilets jaunes, avec lequel en ce moment je suis en contact pour monter quelques émissions. J'aurais aimé qu'il nous parle un petit peu comme au coin du feu de ses premiers faits d'armes et auprès de groupements entre guillemets de Gilets jaunes, il a officié et comment il est arrivé à se retrouver à un moment donné porte-parole parmi d'autres de ces Gilets jaunes qui avaient investi nos ronds-points.
Alors, l'expression au coin du feu est bien jouée, parce que je suis réellement au coin du feu chez moi en Bretagne. Sinon, pour le reste, j'ai toujours été à côté et soutenu le mouvement des Gilets jaunes, mais sans jamais m'y impliquer plus, parce que c'était un mouvement asyndical et à l'époque, j'étais syndicaliste. Donc, par respect pour ce mouvement, j'ai pu discuter avec plusieurs personnes du mouvement des Gilets jaunes. J'ai plus tous les noms en tête, Fauzi, Précilia, d'autres, comment il s'appelle, Flyrider. J'en oublie, j'ai rencontré Aude Lancelin à cette occasion, Didier Maistre, plein d'autres. Mais du coup, j'essayais d'apporter à l'époque une vision de mon point de vue en tant que syndicaliste policier, où j'avais le droit d'être invité sur les plateaux de télé mainstream à l'époque, jusqu'au jour où, nous disons que ça va être l'anecdote, où le Castaner a dit qu'il avait appelé toutes les rédactions en disant qu'il ne fallait plus m'inviter, sinon les journalistes ne seraient plus invités au ministère de l'Intérieur pour avoir les chiffres officiels et les réceptions du ministère de l'Intérieur. Donc du coup, il y en a plein qui m'ont dit poliment, qui m'ont dit bah, on va plus t'inviter parce qu'on préfère être invité au ministère de l'Intérieur. Les médias qui n'étaient pas invités déjà ont rigolé et puis ont dit on va continuer de t'inviter. Il y a un journaliste qui a continué, qui m'a invité une dernière fois pour faire un papier d'un journal mainstream et il a été censuré pendant 6 mois derrière le ministère de l'Intérieur. Ce qui est compliqué pour faire son travail quand on est responsable police justice d'un journal qui a pignon sur rue. Donc voilà, et après, l'autre chose, c'est que tous ces combats que j'ai pu mener sur justement l'utilisation d'une police républicaine au service de la défense individuelle et non au service de l'État pour réprimer tous les mouvements de contestation. À un moment, donc, je me suis retrouvé, comme tu l'as rappelé, sans rien du tout. Et ce qui m'a fait chaud au cœur, c'est qu'il y a eu une solidarité qui s'est mise en place et qui m'a permis de tenir. Parce que si j'avais pas eu cette solidarité, j'aurais été brisé, ma famille complètement détruite. Et voilà, donc il y a aussi ce côté qui m'a fait plaisir, c'est que c'était un mouvement général et que les gens pouvaient aller au bout de leurs convictions et que j'étais pas juste un illuminé tout seul dans son coin.
Quand tu parles de solidarité, tu parles de solidarité financière aussi?
Tout à fait, solidarité financière, parce que du coup, j'ai pas été payé pendant 1 an, quasiment. Et du coup, les gens ont assuré mon salaire et même au-delà de mon salaire, ce qui a permis de lancer des procédures au tribunal, notamment une qu'on a pu lancer grâce à ça aussi. Par exemple, il y avait l'affaire Benalla ou des choses comme ça. On a pu, avec le syndicat, faire des procédures parce que l'objectif n'était pas un enrichissement personnel, mais juste de permettre d'avoir mon niveau de vie habituel. Et le reste a été réutilisé pour combattre cet état oppresseur.
Alors, moi, j'avais une question, si Stéphane, t'en as pas d'autres pour le moment. J'avais une
Non, non,
question
vas-y, je t'en prie.
qui est en lien avec ton dernier livre, parce que, pour faire simple, un titre, Essayer la démocratie, est quelque chose qui aujourd'hui peut être parfaitement compris par les personnes qui sont présentes sur ce space et qui nous suivent, puisque, encore une fois, si nous nous appelons démocratie directe, c'est parce que le mot démocratie a été kidnappé par la République, et que moi, en tant que véritable démocrate au sens strict du terme, je crois parfaitement le principe de devoir essayer la démocratie, puisqu'on ne l'a jamais essayé. Mais j'aimerais savoir si finalement le titre de ton livre est correctement compris quand tu es amené à devoir l'expliquer au grand public qui a le sentiment, lui, de vivre en démocratie.
C'est justement tout le côté des explications qu'il y a à l'intérieur. Et puis, de façon générale, j'essaye de refaire de la pédagogie sur ce sujet parce que je l'ai découvert et on m'a même longtemps cru vivre en démocratie. Et donc là, c'était en référence à la boutade de notre ami Emmanuel Macron qui avait dit « Essayez la dictature et vous verrez ». J'avais envie de lui répondre à l'époque « Essayez la démocratie et vous verrez ». Parce qu'effectivement, depuis 1789, et la France ne s'en est jamais cachée, la BCIS qui avait participé à la Constitution, etc., de la Première République, avait déclaré que la France était un régime représentatif et que du coup, les gens renonçaient à leur souveraineté parce qu'ils la transmettaient à des gens qui allaient faire la loi pour eux et régler le pays pour eux. Et que le peuple, ayant donné sa souveraineté, n'a plus le droit et n'a plus son mot à dire. Et ce qui est contraire d'ailleurs au contrat social de Rousseau, qui avait, je pense, à raison, dit qu'effectivement, la souveraineté ne peut pas se déléguer. Elle se vit ou elle ne peut pas être autrement. Donc, du coup, on a eu une caste politique qui a confisqué le pouvoir. En fait, à mon sens, on a supprimé l'aristocratie pour mettre une nouvelle bourgeoisie de représentants derrière. Mais au final, on n'a jamais essayé la démocratie en France, qui est une démocratie directe, c'est-à-dire que les gens peuvent se donner les choses, dire les choses, parce qu'aujourd'hui, si on veut rien faire, eh ben, on est coupé, parce que l'État est toujours une mainmise sur nous, on nous dit toujours de faire les choses. Et je crois qu'il y avait un libéral du 19e siècle qui avait bien résumé les choses. Vous ne surveillez pas vos représentants, il était pour le système représentatif, c'était Benjamin Constant. Si vous ne surveillez pas vos représentants, ils vous diront obéissez et payez, on s'occupe du reste. Voilà, et lui avait répondu que l'autorité se borne à être juste et nous nous chargerons d'être heureux. Mais aujourd'hui, on est sur cette pente, en fait, où on a un État avec des représentants qui nous disent obéissez et payez, et le reste, on s'en occupe, c'est-à-dire qu'on vous fait les poches, etc. Mais en fait, on n'a aucun contre-pouvoir, tous les contre-pouvoirs ont été abattus, et on ne nous demande pas de voter tous les 5 ans ou 6 ans ou toute élection, on nous demande d'élire. C'est-à-dire qu'élire, c'est aussi important, c'est-à-dire qu'on nous présente un panel de personnes, un petit peu comme quand on regarde une émission de télé-réalité ou une Starac, et on nous dit, bah voilà les gens pour qui vous avez le droit de voter, on a fait une présélection pour vous et vous avez le droit contre ces gens-là. Donc en fait, c'est une inversion, en fait, c'est des gens qui décident tout pour nous en nous faisant croire que nous avons notre mot à dire. Et ce que je rappelle régulièrement, c'est que sous le régime de Napoléon III, il y avait des élections qui servaient de soupape, les gens pouvaient voter, pouvaient dire leurs choses, mais après l'empereur en faisait bien ce qu'il voulait. Et aujourd'hui, on est un peu dans ce même système où les gens peuvent voter, on a pu le voir encore récemment, où la Macronie a perdu les élections à deux reprises, et derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont juste dit, ben, on va laisser comme avant. Donc en fait, notre avis, ils nous le demandent pour voir ce qu'on peut raconter, puis si c'est pas conforme à leurs attentes, ils font exactement ce qu'ils ont décidé au début. Donc voilà, donc c'est ce côté, on n'est pas en démocratie, parce que ce n'est pas le peuple qui décide, c'est une caste de représentants qui décide, et ça a été toujours inscrit en France depuis 1789, avec peut-être une exception, la Commune parisienne en 1870-71, et qui, ben, du coup, a été réprimée dans le sang par la République.
Alors, c'est intéressant parce que finalement, alors que tu fais partie des personnes qui ont une certaine notoriété non négligeable, tu as cette conscience de ce qu'est la démocratie. Du coup, nous ne vivons pas en démocratie. Et comment, justement, t'es venue cette conscience? Est-ce que c'est par, justement, tes études de droit et de sciences politiques, auxquelles il faudrait se questionner sur le fait que tous les autres qui font ces cursus ne sont pas dans la même clairvoyance sienne que tu viens de présenter? Ou qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours personnel à justement prendre conscience de cet état de fait?
Ben, j'ai toujours eu un moment, je me dis, il y a un problème dans ce que je vis, c'est pas conforme à ce que je veux et je me sens pas libre. Voilà. Donc c'est à partir du moment où je me suis dit, je me sens pas libre, parce que du coup, être libre, c'est-à-dire que si du jour au lendemain, je veux rien faire et rester dans un coin, on me dira rien. Mais là, on va me dire, on va venir saisir ta maison, on va venir prendre tes affaires. Donc je ne suis pas libre. Je suis attaché à un système que je n'ai pas choisi. Donc moi, j'ai pas signé un contrat social avec l'État, mais on me l'a imposé. Et à partir de là, je me suis dit, ben, je vais commencer à creuser les idées, et c'est que j'ai commencé par Aristote et les politiques, ou la politique sur l'action. Et je voyais des commentaires extérieurs, je me suis dit, vers l'âge de 28 ans d'ailleurs, je suis pas plus bête qu'un autre, je vais le lire dans le texte pour aller voir ce qu'il raconte. Et c'est là que j'ai vu les différents déjà régimes politiques selon le classement aristotélicien, la monarchie qui peut se dévier en tyrannie, l'aristocratie qui peut se transformer en plutocratie et la république qui peut se transformer en démocratie. Déjà, Aristote n'a même pas le même mot sur république et démocratie. Lui, à chaque fois, il y a des régimes qui sont vertueux parce que les hommes qu'ils composent et la volonté est d'aller vers le meilleur. Et à côté, il y a des régimes dévoyés avec le plus dangereux, évidemment, quand il n'y a qu'une seule personne à dévoyer, la monarchie qui devient une tyrannie, ça devient très vite insupportable et c'est facilement dévoyable. Alors qu'une république en démocratie, la république au sens aristotélicien, pas la république française, est beaucoup plus compliqué parce que c'est ce que la conclusion d'Aristote, derrière, la majorité, tout le monde peut s'exprimer, du coup, résultat des courses, il est beaucoup plus difficile de dévoyer un système comme ça, malgré certaines déviances avec des démagogues ou des choses comme ça. Donc j'ai commencé par là, puis après j'ai commencé à m'intéresser à tous les penseurs qu'il pouvait y avoir sur les types de régimes politiques, j'ai lu Platon, j'ai lu les sophistes, j'ai commencé à creuser aussi après les libéraux, enfin tous les régimes scientifiques, Montesquieu, et ce que j'ai découvert le plus récemment, donc c'était la pensée libérale avec Benjamin Constant, avec un état minimum, et l'autre pensée qui était la pensée proudhonienne avec un état fédéraliste ou avec un principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'à chaque échelon, chacun règle ses problèmes. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et à partir de là, je me suis dit, oui, bah, commençons à repenser les choses dans l'autre sens. Et il y avait une réflexion que je me suis faite sur le quotidien qu'on peut vivre, c'est qu'avant, on nous a dit, l'État nous a créé un nouveau millefeuille administratif avec les communautés de communes, en disant, bah, ça va être bien pour régler des problèmes, en gros, de plusieurs communes. Mais en fait, les communes n'avaient pas attendu pour gérer certains problèmes qu'ils avaient, qui n'étaient pas de leur... Ils n'étaient pas assez gros tout seuls, ils avaient déjà les intercommunalités. Donc en fait, les gens étaient capables de s'organiser par eux-mêmes. Donc à partir de là, je me suis dit, ben voilà, cette réflexion est venue comme ça, et à la fin, je me suis dit, en fait, on nous a volé notre démocratie, qu'on n'a jamais eue, et on nous fait croire qu'on vit là-dedans, parce que, en fait, de ce que j'ai pu comprendre dans le cheminement de ce dévoiement linguistique, c'est arrivé avec Tocqueville et de la démocratie en Amérique, qui fait la confusion entre système représentatif et démocratie, et aujourd'hui, on a mélangé les deux pour parler de deux choses complètement différentes, et quand on n'a pas les bons mots, enfin, on ne peut pas utiliser les bons mots, après, ça coupe le raisonnement qu'on peut avoir, en fait. Si jamais on n'a pas les bonnes définitions, notre raisonnement est cloisonné, ce que disait Goebbels. L'objectif, c'est pas d'empêcher les gens de parler, c'est de les empêcher de penser en réduisant leur vocabulaire.
Donc, oui, vas-y Stéphane, vas-y, je t'en prie.
Oui, dans tous les auteurs que tu viens de citer, dans le rapide et très fouillé et très nombreux rond que tu as fait au niveau littéraire et au niveau logique, on y retrouve beaucoup des citations et des personnages et des auteurs et des penseurs que cite Étienne Chouard. Quel est ton rapport avec lui en termes de communauté et d'esprit, et est-ce qu'à un moment donné, ton éveil politique a aussi été confronté à la pensée et à l'investissement d'Étienne Chouard sur la démocratie directe?
Étienne Choir, je l'ai rencontré. On avait fait même une émission à l'époque sur Sud Radio de mémoire. Et puis, on avait un éditeur en commun. Il avait édité un livre sur le même éditeur que moi. Donc, on s'était rencontré. Et puis, au moment du Gilo aussi. Mais après, ce que sur la. À mon sens, donc ce qui travaille très bien, ce qu'a fait Étienne Chouard sur la démocratie directe, les explications qu'il peut en faire. Mais derrière, ce que je trouvais, c'est que c'était trop théorique. C'est-à-dire qu'on pouvait perdre des gens parce qu'on ne voyait pas l'application pratique, comment on le met en place, parce qu'on pouvait rédiger des cahiers de constitutionnels comme il avait mis en place, donc des travaux pratiques, mais qui ne va finalement convaincre que des convaincus. Pour étendre le cercle, je trouvais que c'était, il fallait des gens en commande son action. Voilà. Et après, malheureusement aussi, ce qu'il y a eu avec Étienne Chouard, ce qui lui a coûté très cher et ce qui a aussi brouillé son discours, c'est qu'il s'est fait piéger par Denis Robert dans une émission, je ne sais plus sur quel sujet, mais après, derrière, on l'a taxé d'antisémite ou je ne sais plus. Il avait une question sur les chambres à gaz de mémoire. Mais du coup, il s'était fait piéger. Il n'avait pas répondu, il a répondu à côté de la plaque à ce moment-là. Pas parce qu'il avait une pensée dans ce côté-là, mais c'était juste pour le piéger, faire un enregistrement. Donc aussi, à ce côté, se préparer aux coups tordus qu'on peut nous faire. Et en allant à cette émission, il ne s'était pas préparé à ces questions pièges, alors que c'est des choses qu'on peut répondre. Mais malheureusement, sa réputation a été ternie, alors qu'il avait des choses à apporter. Donc bah, du coup, c'est de continuer le travail en complément, en servant de ses travaux, en fait.
Oui, tout à fait. J'ai vécu cette émission en direct et j'ai pas bien compris d'ailleurs comment quelqu'un comme Denis Robert, avec l'engagement officiel qu'il a pu tolérer que ce genre de choses se fassent, parce que c'était vraiment effectivement un piège en ce qui concernait l'existence des chambres à gaz, ce qui lui avait d'ailleurs valu aussi un recadrage entre guillemets de Didier Maistre et l'arrêt des émissions sur Sud Radio, comme quoi, comme il le disait souvent, quand on n'arrive pas à tuer le message, on essaye de tuer le messager. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est entre guillemets une forme de reproche bienveillant que l'on peut faire de temps en temps à Étienne, qu'on entend toujours. Donc, quelle était pour toi, en complémentarité de ce que tu viens de dire, justement l'action que tu as entreprise et quelles sont pour toi les perspectives par rapport aux idées que tu défends concernant la démocratie directe?
Les perspectives sur la démocratie directe, vu comment le système est verrouillé, il n'y a qu'un seul endroit qui n'est pas encore verrouillé à 100%, c'est l'élection présidentielle. Donc, c'est arrivé à mettre quelqu'un à gagner l'élection présidentielle et que derrière, il rase la table pour remettre. Donc, ça veut dire que pour ça, ce n'est pas un programme qu'il faut, c'est quelqu'un à qui on a confiance. Voilà, vu la classe politique qu'on a en ce moment, ceux qui peuvent avoir des parrainages, a priori, ce n'est pas gagné. Mais ce serait la solution, j'allais dire, pacifique. Deuxième solution, c'est une révolte. Mais une révolte, on ne sait jamais comment ça se termine. Il faut surtout se fixer les bons objectifs. Et malheureusement, dans une révolte et une révolution, il y a toujours des morts et des innocents qui prennent, ce qui n'est pas non plus acceptable. Mais des fois qu'on est poussé au bout du rouleau, malheureusement c'est l'État un peu français, c'est qu'on attend toujours des extrêmes d'un côté ou de l'autre pour finalement tout régler à coups de fourche et de bâton. Et la troisième solution, c'est ce qui avait été mis en place et ce qui est la piste qui semble la plus intéressante et vraisemblable, je veux dire, dans ce que j'espère, en dehors du fait qu'on arrive à changer par la classe politique actuelle, mais ça c'est plus de l'utopie, c'est ce qu'avaient mis en place les syndicats fin 19e, début 20e, ils s'étaient organisés en société parallèle. Ils mettaient en place des caisses pour les salariés malades, enfin pour s'étaient organisés aussi pour les vacances, enfin ils s'étaient tout organisés eux-mêmes en demandant rien à personne. Ils ont dit, bah, nous on va prendre de notre temps, on va s'organiser, et puis bah, vous faites votre société dans votre coin, nous on va faire la nôtre. Et puis un jour, il y aura assez de monde dans notre organisation, et comme on a créé et pensé une nouvelle société, et au lieu que de la penser, on la vit dans les actes, et un jour ça changera. Bon, finalement, les syndicats ont tous été achetés à coup de subvention, ils sont rentrés dans le rang, mais il y a plus ce côté, donc c'est ce côté de s'organiser sans l'État.
Oui, alors c'est très intéressant parce que légaliste comme toi, ancien dans le corps policier, anciennement généraux, enseignement aussi à disposition du service du bien public, tu es capable d'envisager une insurrection et il y a certaines prises de position d'ailleurs chez toi où parfois la rébellion qui était un des motifs de l'émission qu'on avait eue la dernière fois avec Didier Maistre, Clara Heger et Raoul Maniberton, qui était donc la thématique était la rébellion ou les élections, tu envisages carrément les deux scénarios si j'ai bien compris.
Aujourd'hui, on peut enlever aucun sérieux, parce qu'au fur et à mesure de ce qui reste du régime représentatif, on se tombe de plus en plus, ce que j'ai pu publier sur le sujet, dans un régime fasciste qui contrôle la population et un système totalitaire qui ne veut surtout plus que les gens s'expriment. Ce qu'on a pu vivre d'ailleurs au delà des élections, on a pu s'exprimer, mais finalement tout le monde s'est fichu du résultat de ce qu'on avait pu exprimer. Autre chose, donc du coup, c'est de se dire, bah, à un moment, les élections et la voie légaliste aujourd'hui, ils sont en train de la fermer pour rester entre eux. Tous les budgets de l'État sont en baisse quasiment. Le seul qui a été équipé, pourvu, etc., c'est tout le système système de maintien de l'ordre, de répression, grenades lacrymogènes, blindés, pour eux, pas réprimer la délinquance, réprimer le peuple. Donc déjà, ça donne la teneur des choses. Ils sont courants qu'on n'est pas content, ils s'y préparent, eux, ils sont prêts. La deuxième chose, donc de ce côté-là, il y a peu d'espoir. Mais si jamais il y en a un, autant le tenter. La révolte et la révolution, des fois, c'est au bout d'un moment, les gens pètent les plombs parce qu'ils n'en peuvent plus, ils se révoltent, ils passent ailleurs. Je reprends, c'était Philippe Bas qui était président de la commission des lois au Sénat et qui avait mené les interrogatoires lors de l'affaire Benalla et qui avait dirigé la commission, qui était un colloque d'avocats, qui avait dit « La prochaine fois que les Français vont aller dans la rue, si on ne les a pas entendus parce qu'on n'a pas mis des contre-pouvoirs et des organes pour les écouter, les entendre et faire avancer certaines de leurs revendications, la prochaine fois, il y aura un mouvement de gilets jaunes x10. » Et ça, il l'a dit il y a 2-3 ans. Donc voilà, et là, on n'arrêtera pas les gens. Et tous ceux qui sont aux commandes en ce moment, ils auront intérêt à s'enfuir très loin. Donc ça, c'était quelqu'un qui était avant aussi secrétaire général de l'Élysée, je ne sais plus si c'était sous Chirac ou sous Sarkozy, donc quelqu'un d'assez posé, voilà. Mais qui se dit qu'il n'exclut pas une révolte très très dure et très violente parce qu'on a pris les Français pour des cons. Et la dernière solution, c'est d'organiser ce qui me semblerait l'alternative la moins rapide, mais au moins la moins dommageable, c'est de s'organiser par nous-mêmes avec des sociétés en disant, ben voilà, on refuse de payer nos impôts, on s'organise notre sécurité sociale, on s'organise nos assurances, et puis au bout d'un moment, ça va s'écrouler. Et avec une petite anecdote, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en train de remettre la proportionnelle dans les élections, donc ça veut dire qu'ils redonnent la mainmise au parti. C'est-à-dire que là, il y avait encore quelques candidats indépendants qui pouvaient se présenter, notamment aux législatives, ce ne sera plus possible. Ce sera le parti qui décidera qui va sur sa liste. Et si on n'est pas dans le cadre dit, c'est dehors. Et la dernière chose sur ça, ce qui est important sur les élections législatives, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un vote, c'est 1,60€ pour le parti le temps de la mandature. Donc il y a aussi ça, ils nous attaquent au portefeuille en allant voter aux élections législatives. On prive les partis de subventions pendant la durée du mandat. Et si personne vote pour eux, au lieu d'avoir des millions d'euros, ils n'auront plus que quelques centimes d'euros. Et ce qui leur fera les pieds et ils arrêteront peut-être de se battre pour piquer notre pognon. Donc il y a toutes ces petites choses aussi qu'on ne voit pas forcément derrière, mais qui peuvent les attaquer un petit peu.
Alors justement, tu l'as bien expliqué, et on avait d'ailleurs eu un space dédié sur les stratégies et modalités de la prise de pouvoir, où j'avais expliqué que de mon point de vue, il y a effectivement trois possibilités pour essayer de capturer le pouvoir. Il y a l'infiltration du système, le fait de se présenter aux élections. Il y a la contestation du système, qui est le fait d'organiser des manifestations, des systèmes d'opposition par la grève ou autre. Et puis, il y a la substitution, qui est le fait d'organiser un système parallèle qui, s'il remportait effectivement une adhésion conséquente, pourrait se prévaloir d'être plus légitime que le système en place. Tu as, dans ton parcours, participé au principe d'infiltration à travers les différentes élections auxquelles tu t'es présenté. Où est-ce que tu te positionnes aujourd'hui? Quelles sont tes stratégies pour justement nous permettre, à nous collectivement, d'approcher le fait d'essayer cette fameuse démocratie?
Aujourd'hui, je me place en fait... Je partage d'expérience, j'allais dire, partage de lecture, partage d'idées, venir intervenir comme ça pour donner des idées. Mais après, sur le point de vue opérationnel, je me place un peu nulle part parce que du coup, sur aucun des trois thèmes, j'organise rien du tout et je participe à rien. Donc, ça risque pas d'avancer. Mais avec une chose sur, par contre, qui est importante dans ce que tu viens de dire, si tu parles pour la vue du pouvoir, c'est ce qui tout le monde se bat pour le pouvoir. Moi, j'aimerais déjà qu'on se batte pour reprendre notre liberté. Une fois qu'on a repris notre liberté, en fait, le pouvoir, pour une division absolue du pouvoir, donc, pour une démocratie directe, mais que du coup chacun ait un propre pouvoir, mais pour ça c'est pour la liberté qu'il faut se battre. Autant dire que quand on se bat aujourd'hui, on dit je vais me battre pour le pouvoir et je vais défendre telle ou telle personne ou telle écurie pour gagner le pouvoir, en fait on ne fait que choisir un nouveau maître, alors que si chacun se bat pour sa liberté, il aura le pouvoir de décider par la suite. Donc c'est de remettre les choses dans le bon sens, et aujourd'hui j'ai entendu aucun discours de nos amis politiques ou représentants ou de gens qui mettent les choses en place de se dire on va se battre pour la liberté de chacun, c'est donnez-moi le pouvoir et je ferai votre bonheur, alors que du coup ils feront jamais à part le leur. Et donc pour répondre à ta question, pour le moment je me place dans aucune des trois stratégies, je participe à celle où je suis invité, mais je suis engagé nulle part.
D'accord. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être une ambiguïté quand on parle de pouvoir. Il y a le pouvoir de l'individu et puis il y a le pouvoir collectif. Et quand on parle, nous, de récupérer le pouvoir, il est évident que celui-ci ne peut être personnifié et il est divisé par autant de citoyens qui fondent l'ensemble de la nation et de la population. Donc c'est vrai que c'est important de le préciser, mais quand on parle de récupérer le pouvoir, on le pense au sens collectif du terme. Oui Stéphane, vas-y.
Oui alors Alexandre, est-ce que tu pourrais préciser un petit peu, parce que tu mets dans les deux sens le pouvoir et la liberté et le pouvoir, comme Cali vient de te le dire. On pense que retrouver notre liberté de citoyen, c'est donc prendre le pouvoir. Donc c'est aussi une autre formulation qui met en parallèle le pouvoir et la liberté. De ton point de vue, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour retrouver cette liberté très concrètement?
Très concrètement, abattre l'État, en fait. J'ai essayé un ancien policier qui parle, mais l'État, en fait, aujourd'hui, est utilisé contre nos intérêts, en fait. Et on n'a pas besoin d'État en soi pour s'organiser par nous-mêmes à des structures à dimension humaine. C'est-à-dire qu'il y a besoin de structures en société, il y a besoin de structures humaines, mais pas forcément d'une super structure qui, finalement, s'auto-alimente elle-même et qui, en fait, pour se prouver son existence, a besoin d'écraser les autres. Donc, ce serait de démonter l'État ou de le mettre au minimum. Et de ce côté-là, c'est pour ça que j'invite des gens à redécouvrir ou à lire Proudhon et fédéralisme, mais relire les pensées libérales, enfin toutes les pensées qui expliquent les dangers de l'État et son omnipotence.
Alors, il y a quand même un problème, et c'est justement intéressant de t'avoir ce soir, c'est que l'État bénéficie d'un système de protection, hein, de défense de son ordre, que sont forces de l'ordre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a bien vu sur les dernières manifestations, que ce soit celle pour les retraites ou encore celle d'avant des Gilets jaunes, la répression peut être d'une extrême violence et d'ailleurs bien souvent en dehors même de la législation, de la légalité, même si les responsables politiques le contestent, il semble assez facile de se voir cette évidence quand on regarde certaines images. La question, et tu dois sûrement bien connaître cela, comment est-il possible de faire en sorte que ces forces de l'ordre s'éveillent un peu plus au fait qu'elles sont finalement les gardiennes d'un système plutôt totalitaire et que du coup leur volonté, qui est souvent noble initialement, qui est de défendre la population, défendre la veuve et l'orphelin, enfin toutes ces images un petit peu d'Épinal qui font beaucoup veulent s'engager, et gens à la maison qui est sur le prisme un peu plus peut-être militaire, mais qui est dans cette idée-là de vouloir sauver finalement les individus. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces forces de l'ordre prennent conscience de ceux qu'ils servent et contre qui finalement ils servent cet État, cette oligarchie, ce système totalitaire?
Je crois que la prise de conscience, en fait, c'est fait que bah, tous ceux qui étaient rentrés par idéaux dans la police dont je faisais partie sont vite déçus par la réalité qu'ils vivent au quotidien, des ordres politiques, des choses. Moi, par exemple, j'avais arrêté, moi j'ai dit là, il faut que je jette l'éponge, et qu'on m'avait demandé des notes de renseignement sur ce que pensent les gens des discours d'Emmanuel Macron. Bon, j'ai fait il y a un moment, en fait, ça c'est plus un travail de police, de protection de la population, ça devient une police politique pour le coup. Est-ce qu'on est sur quelque chose d'autre? Et après, l'éveil, eh ben, l'éveil, le gouvernement l'a bien pris, ils sont en train de nettoyer la police, ils ont descendu le niveau de moyenne à 5 pour faire rentrer les gens dans la police, il y aura 2 dans la pénitentiaire, ils baissent le niveau d'études pour avoir des gens plus manipulables et plus influençables, avec des gens qui ont besoin de ça pour vivre. Après, les autres, ben, ils s'en vont, ils demandent des ruptures conventionnelles, ça avait explosé à l'époque, c'était possible, ils pensaient pas qu'il y aurait autant de gens qui veulent partir. Et aujourd'hui, pour garder les stats à peu près rentables de gens qui ne veulent pas partir, ils contraignent les gens à rester pour les statistiques. Donc, il y a même quelqu'un qui avait dit je veux partir. Elle a demandé sa sanction au conseil de discipline d'être virée. Ils lui ont dit non, on va juste vous exclure pour les statistiques. On a besoin que vous continuez de compter. Voilà. Donc, on a des histoires complètement ahurissantes. Donc, du coup, il y a une prise de conscience, mais les gens ne veulent pas rester. Du coup, heureusement qu'il y en a qui restent et qui disent bah, nous, on fait le minimum syndical et il ne va rien se passer avec nous. Mais ceux qui vont être encouragés, c'est les personnels, par exemple, qui vont dans les Braves M, ces unités de moto, donc qui sont des voltigeurs ressuscité par la Macronie, en fait, et je rappelle toujours que les voltigeurs, donc c'est ceux qui avaient abouti à la mort de Malik Oussekim en 1986, et que Charles Pasqua, j'ai encore rencontré personne qui m'a dit que Charles Pasqua était laxiste, avait dissous ces unités en disant qu'elles étaient dangereuses et qu'elles n'avaient pas un but de protection de la population. Donc Castaner et Macron les ont remis en place. Donc ça pose des questions, et avec des unités au début, donc ça a changé, mais au début ils avaient pris des membres de différentes unités pour pas qu'on les retrouve. Ce qui était une technique aussi qui avait été utilisée pendant la guerre d'Algérie, quand il y avait des atrocités de commises, on prenait des soldats de différents régiments, on les assemblait pour une seule opération, et après on les dispersait, comme ça on ne pouvait pas les reconnaître facilement. C'est aussi les sources d'inspiration sont intéressantes quand on creuse un petit peu l'utilisation des forces de l'ordre par la Macronie. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, aujourd'hui, la prise de conscience, les gens s'en vont. Donc, la prise de conscience de ceux qui vont rester, d'ici 10-15 ans, il n'y aura plus que des gens qui seront juste aux ordres, en fait, qui n'auront plus de recul pour avoir une réflexion nécessaire.
Alors, déjà, deux questions me viennent. C'est que, premièrement, quand tu parles de la BRAVEM, les personnes qui sont au sein de la BRAVEM aujourd'hui et qui, effectivement, ont des pratiques extrêmement violentes, ne sont pas essentiellement composées de ces nouvelles recrues qui, effectivement, sont, on pourrait dire, sous-qualifiées par rapport à la police d'il y a encore quelques années. Donc, qu'est-ce qui fait que ces agents-là sont dans cette acceptation pratique? Et puis, deuxième question, que deviennent finalement ces agents des forces de l'ordre qui ont quitté le service parce qu'ils ont eu conscience qu'ils ne servaient plus la population. Et qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils ne cherchent pas justement à devenir engagés d'une autre manière? Est-ce que toi, tu as des contacts, des informations sur cela?
Du coup, quand on se perd de vue après, quand chacun va vivre sa vie, je sais que par exemple, je connaissais une capitaine de police qui avait été aussi écœurée, qui avait dit bah, moi j'en ai marre, je demande à une rupture conventionnelle à l'époque. On lui a dit c'est pas possible, elle a dit bah, c'est pas grave, je démissionne. Et elle est partie faire du théâtre. Voilà. Donc elle est partie avec un monde de la culture en disant je vais exposer mes idées et ma façon de penser par l'art. Et après, je reviens sur la. Donc les gens partent et vont faire autre chose. Soit d'autres qui partent dans le privé, qui partent à droite, à gauche, mais tout le monde n'a pas envie forcément de se remettre en disant l'idéal a été trahi, maintenant bah, je vais me couper de tout ça et surtout m'en éloigner. Il y en a aussi beaucoup qui sont dans cette résignation, parce que la police nationale est une institution qui abîme et détruit ses propres personnels. Hein. Donc que les gens des fois veulent souffler quand ils partent, je rappelle qu'il y a un suicide en moyenne par semaine et que, il n'y a absolument rien qui est fait pour les limiter. Au contraire, même des fois il y a des gens qui laissent une vidéo, je repense à une policière qui avait laissé une vidéo en disant c'est de la faute de ma hiérarchie qui m'a poussé au suicide, etc. L'affaire a été classée, circulée, il n'y a rien à voir, on ne sait pas ce qu'elle raconte, c'est une folle. Donc voilà. Donc il y a aussi cette pression qui détruit des vies, qui détruit des familles. Donc les gens veulent aussi juste s'en aller, cette machine à broyer les gens. Et sur les BRAVEM aussi, chose importante, c'est des volontaires qui vont dans cette unité. Donc en fait, il y a déjà une sélection de gens qui veulent vraiment y aller. Donc il y a aussi malheureusement, comme dans toute profession, une minorité de gens qui sont ultra violents et qui sont là pour bah, justement cogner du manifestant, cogner de ce qu'on leur dira de cogner d'ailleurs. Il y en a qui sont juste là pour cogner. Et bah, effectivement, il y a ce côté de certaines unités qui attirent certains profils plus que d'autres. Voilà. Et donc, à la différence d'un boulanger quand il rate son pain qui peut nous faire une intoxication alimentaire, ici, on peut arriver à des gens qui sont mutilés, blessés, ou là, même tués sur certaines manifestations ou certaines interventions de police. Donc, on est sur quand même un autre niveau. Et sur cela, rien n'est fait.
Et tu dis qu'ils sont volontaires pour l'EM. Ils le sont aussi peut-être pour des questions de rémunération. C'est-à-dire que quand on intègre ce type de service, j'imagine qu'il y a une forme de récompensation financière.
Non, même pas forcément. Non, non, les seuls services qui
Même
sont
pas.
payés un peu plus, non, c'est les CRS. Mais les CRS, c'est même pas pour le service, c'est parce qu'ils sont en déplacement professionnel une bonne partie de l'année. Donc, ce qui est payé, c'est pas le fait d'avoir des missions de maintien de l'ordre. Ce qui est payé, c'est le fait d'être loin de chez soi. Donc, non, à part les CRS qui ont ça, et encore même l'État voulait les enlever pour des restrictions budgétaires, les BRAVEM, je crois pas qu'ils aient des missions. Peut-être c'est une ou deux primes en plus, mais c'est pas une question pécuniaire qui fait que les gens viennent dans cette unité.
Merci. Stéphane, je t'en prie.
Oui, en complément de ce que tu nous dis, puisque tu es en train de brosser un portrait terrifiant de la police en règle générale, bien entendu, on peut supposer que les anciens, ceux qui sont issus d'un niveau d'études un peu plus supérieur, ceux qui n'ont pas été recrutés lors de ces dernières années, peuvent éventuellement continuer à tirer, entre guillemets, vers le haut. Mais est-ce que tous ces anciens ou tous ceux qui ont un niveau qui n'a pas été défini, encore une fois, en le tirant vers le bas, sont-ils, eux, dans une forme de carriérisme et complètement aux ordres, ou tu penses qu'à terme, il peut y avoir une scission au sein du corps policier qui va éventuellement faire basculer, dans le cas d'éventuelles émeutes ou dans le cas d'éventuelles, j'allais pas dire, pas de guerre civile, mais à un moment donné, cette fameuse attente que certains ont, dont les Gilets jaunes, que. Qui baisse le bouclier et tombe la marque. Qu'est-ce que tu vois, toi, dans l'évolution de ce corps auquel tu as fait partie pendant de nombreuses années?
Alors déjà, il y a une chose importante, c'est que c'est pas forcément le niveau d'études qui valide quelque chose, parce qu'il y a des gens qui ont des bons niveaux d'études aujourd'hui, mais en fait, le niveau d'études déjà est nivelé vers le bas déjà avant. Et après, je repense à l'expression justement de quelqu'un, d'un collègue policier qui n'avait pas le bac, et puis il y en a un qui lui dit de toute façon, vous n'avez même pas le bac, c'était un commissaire qui lui dit, moi j'ai le bac plus 5, vous êtes qui pour me parler? Il lui avait répondu très intelligemment, un niveau d'études valide un niveau d'instruction, pas d'intelligence. Et voilà, le commissaire s'est rassis, et puis il n'a plus rien dit. Mais donc ce qui veut dire qu'en fait, il y a aussi le côté du vaut culture générale, éveil, etc., parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir un cerveau très bien fait, mais qui sont complètement dans un système et engrenés là-dedans. La deuxième chose, est-ce que ça va changer quelque chose? Non, au pire, les gens ne baisseront pas les matraques, mais s'en iront. Et même pour baisser les matraques, c'est compliqué. Parce que c'est arrivé pendant le mouvement des Gilets jaunes, il y avait des policiers, je crois, vers la région de Bordeaux, je sais plus à quel endroit exactement, une compagnie d'intervention, qui à chaque fin de manif, baissait le bouclier, enlevait le casque en signe de dire, bah, écoutez, nous, on a mis ça pour la manif, mais maintenant que c'est en train de se terminer, on enlève tout. Et un jour, il a suffi d'un abruti dans les manifestants pour jeter un œuf. Et résultat des courses, bah, les fois d'après, ils n'ont plus pu enlever le casque. Ils ont dit la prochaine fois, si quelqu'un envoie un pavé ou un caillou, et bah, si jamais vous n'avez pas votre casque alors que vous étiez encore en mission de maintien de l'ordre, bah, vous ne serez pas indemnisé. Si jamais vous êtes tué, votre veuve n'aura le droit à rien parce que vous aurez fait une faute professionnelle au niveau de votre équipement de protection. Donc à chaque fois, il suffit d'un idiot d'un côté ou de l'autre pour que tout dérape dans un sens ou dans un autre. Voilà, et la dernière chose aussi, c'est que dans la police, donc ça c'était déjà parce que l'amorce de contrôle de la population par la police, pour moi, a commencé avec Manuel Valls, Premier ministre. À l'époque, je ne sais plus si elle était ministre de l'Intérieur aussi, enfin bon, Manuel Valls, quoi. Si ministre de l'Intérieur aussi, d'ailleurs, parce qu'il avait dit à l'époque, il avait donné des primes extraordinaires aux commissaires. C'était le journal Le Point, un article de 2014, qui avait fait le calcul qu'un commissaire de police, directeur sur Paris, enfin voilà, pouvait gagner une prime annuelle de 150 000 euros maximum. 150 000 euros, ça fait quand même beaucoup de monde. C'est plus que doubler son salaire annuel. Et j'avais eu la chance, ou la malchance, j'en sais rien, mais enfin, j'avais croisé Manuel Valls au cours de ses déplacements et de ses interventions. Je lui ai dit, mais comment ça se fait que vous êtes capable de déployer autant d'argent pour les commissaires de police alors qu'on pourrait répartir cet argent déjà juste pour les équipements, les choses? Il avait répondu, mais écoutez, ça ne me coûte pas grand-chose finalement sur un corps qui un peu moins de 2000 personnes. Je les achète très cher, ils vont vous fouetter très fort parce qu'ils vont toujours vouloir toucher leur prime. Et derrière, c'est vous qui allez vous mettre aux ordres parce que j'aurai une équipe de garde-chourme qui est très bien payée. Et derrière, ces gens-là peuvent vous faire du chantage si vous voulez. Il y a beaucoup de policiers qui sont affectés en région parisienne, mais qui veulent retourner dans leur région d'origine, donc soit en province, soit même pour certains dans les Antilles ou dans les Dom-Tom. Et résultat des courses, il y a un chantage en disant bah, ta mutation elle va prendre beaucoup plus de temps, on va te pourrir tes week-ends, on va te pourrir ta situation au fur et à mesure. Donc en fait, il y a toute une pression interne qui coûte zéro, mais qui est une pression psychologique qui est mise en place, un harcèlement institutionnalisé. Et résultat des courses, ça coûte juste la corruption de quelques commissaires. Et dans ces commissaires, il y a certains commissaires qui avaient refusé, qui étaient cet état d'esprit. Ces commissaires, bien sûr, s'en sont pris plein les dents et ont fait la une des journaux. On leur trouvait des affaires qui finalement étaient montées de toutes pièces. On salissait leur réputation, on leur disait pour que tu comprennes. Je pense à un récemment, enfin, un top du gain de cause, c'était le commissaire qui était au moment des attentats au marché de Noël de Strasbourg. On lui a monté toute une cabale sur lui. Finalement, il était innocent, mais on lui a pourri sa vie pendant 3 ans parce qu'il était trop proche de ses effectifs. Donc, voilà, il y a tous ces côtés-là où tous ceux qui ne sont pas dans le sérail étatique sont pourchassés même au plus haut niveau.
Alors, il y a aussi des choses qui m'ont intéressé dans ce que tu as dit précédemment, c'est que finalement, aujourd'hui, tu n'es plus dans l'approche des solutions, tu es plus dans le fait de partager tes expériences. Justement, parce qu'on peut considérer que c'est une forme de démobilisation, que soit tu n'y crois plus, soit tu es fatigué, et on peut comprendre effectivement qu'au bout d'un certain temps de combat contre une machine telle que celle qui nous opprime, on se lasse, on s'abîme. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit, alors la contestation, aujourd'hui on a bien vu que même des mouvements aussi légitimes que ceux des agriculteurs ne sont pas soutenus, donc je ne sais pas très bien ce qui va pouvoir réveiller la population qui s'est éveillée au moment des gilets jaunes ou des retraites, puisque le système les oppresse de plus en plus. On le voit là avec le nouveau budget qui est une véritable catastrophe et ça ne semble provoquer aucune réaction. Mais sur le prisme de la substitution, donc essayer de trouver des modèles qui permettraient d'organiser un système parallèle. Alors, avec une petite précision, c'est que quand tu parlais finalement de ne plus payer ses impôts et de faire les choses autrement, je pense qu'il est difficile de faire un système de substitution qui mette les individus à défaut du système actuel. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Ou l'élection. C'est-à-dire que là, on sait qu'on a d'abord l'élection de 2026, qui va être, on est beaucoup à le penser ici, très importante, peut-être même des élections anticipées, et puis ensuite 2027. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'es plus dans l'action? Et est-ce que c'est une pause? Est-ce que c'est vraiment une fatigue générale? Comment tu peux nous le préciser, ça?
Bon, il y a un moment, j'ai eu besoin de me reconstruire parce que j'ai été bien amoché par ce cher État. Enfin, j'ai subi plein de petites pressions, saisi des comptes, vidé mes comptes, perdre mon métier. Enfin, ils m'ont fait tout ce qu'ils pouvaient me faire pour me pourrir la vie. Ils m'ont multiplié les procès dans tous les sens pour que je ne puisse pas me défendre faute de moyens financiers à la fin. Donc, il y a eu ce côté une fatigue, oui, parce que c'est une machine en face à broyer. Ils ont tous les moyens parce qu'en fait, finalement, ils utilisent notre argent pour nous détruire. Donc, il y a eu ce côté-là. Et après, la deuxième chose, c'est que ben, j'ai essayé de faire des choses au niveau syndical. Finalement, il y a eu des combats menés, mais finalement pas de résultats. J'ai essayé de faire des choses au niveau politique, mais finalement, il n'y a pas eu de résultats non plus. Donc, il y a peut-être des gens qui sont plus à même de mener ces combats pour le moment. Moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc, je me remets à un autre niveau en essayant de trouver une autre place dans la lutte générale contre la Macronie. Donc, voilà. Donc, j'ai fait des essais, ça n'a pas fonctionné. Donc, à la différence de Macron, je ne dis pas que ce n'est pas un échec, ça n'a pas marché, mais donc, ça n'a pas marché. Et bah, du coup, place à d'autres personnes, peut-être plus, bah, je ne sais pas, le charisme, la compétence, ou qui auront plus de clés pour déverrouiller le système. Mais je vois de plus en plus de difficultés avec ce système.
Oui, c'est un petit peu, quand je t'écoute, le sentiment que je ressens, c'est que tu as l'impression que, en fait, ce système qui devient de plus en plus totalitaire est donc du coup de plus en plus difficile à pouvoir déstabiliser, c'est bien ça?
Ben, il est de plus en plus difficile à déstabiliser, oui, enfin, mais après, il est aussi de plus en plus fragile, parce que plus on utilise de la force, plus on met de mécontents en soi. Il y avait un article récent qui disait que le couple d'Emmanuel Macron et Brigitte Macron, à chaque fois qu'ils se déplacent, ils ont peur de se déplacer parce qu'ils sont menacés par tout le monde, y compris le quidam moyen, ce qui n'arrivait à aucun président de la République avant lui en France. Et l'autre chose, c'est que ben, moi j'ai fait des essais, ça n'a pas marché, donc du coup, ben, acte, et donc je me mets à un niveau où je peux être utile, et puis je laisse à d'autres personnes qui peuvent être utiles à des postes plus opérationnels.
Mais du coup, tu es quand même toujours dans l'approche d'apporter des soutiens ou tu t'es vraiment mis en retrait? Est-ce que tu as soutenu par exemple Kuzmanovic? Est-ce qu'aujourd'hui tu es toujours en contact de certaines lignes politiques, personnages politiques, certains partis politiques pour essayer d'apporter, même si c'est de façon plus en retrait, pour être moins, étant moins en moins soumis aux foudres du système? Mais est-ce que tu es toujours dans cette idée d'apporter une forme de ton expérience ou autre, ou au contraire, tu te contentes d'être sur uniquement de l'information par le prisme de Tocsin, par tes ouvrages, et tu considères que c'est déjà suffisant?
Bah, non, non, je continue. Si, en fait, il y a des mouvements politiques ou tout ça. Il y en a eu récemment qui m'ont demandé, j'aurais dit, ben, je suis pas forcément d'accord avec vous à 100%, mais moi, il n'y a pas de problème pour que je vienne vous expliquer ce que j'ai vu d'expérience et voir ce que vous pouvez en faire. Donc, si, je suis et au contraire, je veux garder cette liberté parce que je veux pas être enfermé dans une chapelle avec une étiquette et pouvoir continuer de discuter avec tout le monde. Donc, par contre, s'il y a des gens qui sont dans des mouvements qui peuvent lutter contre la Macronie et le système totalitaire qui est en train de se mettre en place, je viens apporter un éclairage. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Et c'est pas parce que je vais participer à certaines conférences ou à certains réunions de partis politiques que j'adhère forcément à tout le parti politique. Je suis plutôt en retrait de tout ça, mais voilà, donc j'interviens s'il y a besoin, voilà, ou si on me demande surtout.
Oui, c'est un petit peu comme, bon, Stéphane en est un parfait exemple, hein, c'est que Stéphane est je me permets de parler pour lui, mais c'est un systémiste, quelqu'un qui considère que c'est un système qu'il faut remettre en place et que les partis politiques ne sont pas en soi une solution. Moi, je pense même que c'est le contraire. Ça ne nous empêche pas, effectivement, de recevoir hier, levait Lucas de Paris de Décidémos. La semaine précédente, on recevait Clara Eger et Raoul Manier-Barthon. De solutions démocratiques. Bon, on essaye effectivement de donner le plus de place possible à ces partis hein, qui cherchent à faire émerger le principe démocratique, mais effectivement, on est quand même de façon générale confronté à une invisibilisation de ce qui va dans le bon sens et à être en permanence en recherche de solutions. Et donc, du coup, à faire en sorte que les personnalités qui ont une aura, qui ont une capacité à peut-être faire porter la parole un peu plus loin que nous, simples particuliers, totalement invisibilisés là, vraiment de façon générale, eh bien, on se raccroche parfois un petit peu, ce qui est d'ailleurs un rôle qui est à la fois paradoxal pour un système, enfin, pour ceux qui souhaitent véritablement un principe purement démocratique où finalement chaque citoyen est au même niveau que l'ensemble des autres, et en parallèle de cela également un petit peu. Un petit dangereux pour ceux qui sont justement mis en avant par la population, comme tu as pu en faire partie. Oui, Stéphane.
Oui, pour rebondir à ce que tu viens de dire, Cali, et au propos d'Alexandre, j'entends beaucoup dans ton discours des prises de position très tranchées, avec beaucoup d'argumentaires. Tu nous as parlé tout à l'heure aussi de ta vision de la possibilité de reprendre cette liberté avant de pouvoir prendre le pouvoir, ou éventuellement, je le redis peut-être l'inverse. J'entends pas dans ton discours le mot citoyen, et dans les solutions que tu as abordées, tu nous as parlé directement de la présidentielle. J'aurais aimé savoir quelle était ta réflexion et ton approche par rapport à la citoyenneté au niveau local et au niveau communal, ce qui est entre guillemets un petit peu notre fer de lance. Et c'est toujours intéressant d'avoir des avis qui divergent et qui peuvent nous apporter un autre éclairage dans la réflexion. Quel est ton positionnement par rapport à ça, la citoyenneté et l'activisme local et communal?
Il y a deux choses. Pour l'activisme communal, c'est très bien, c'est l'échelon le plus proche de nous, mais c'est pas avec lui qu'on changera le système. Le système, malheureusement, est complètement centralisé, c'est l'histoire de la France. Et si on ne fait pas sauter le système depuis Paris et l'Élysée, il pourra pas sauter parce que les différentes communes s'organisent. Donc c'est bien au niveau local, mais au final, ça fera pas changer les choses. Et même, ça va encore empirer, parce qu'avec la suppression des impôts locaux, enfin d'une partie des impôts locaux, notamment la taxe d'habitation, finalement, les communes sont dépendantes du bon vouloir de l'État qui leur redonne ou pas les subventions par derrière. C'est-à-dire qu'on leur dit, on va enlever de la taxe et on va vous rembourser derrière. Sauf que ça a enlevé une partie de l'autonomie de certaines communes. Je pense à ça notamment, par exemple, pour les parrainages au niveau des élections présidentielles. Certains maires, maintenant qu'ils sont intégrés dans des communautés de communes, on leur a dit, si tu donnes ton parrainage à telle ou telle personne, ben, on te suit que tes subventions pour ta commune. Voilà, donc il y a ce côté où les communes, en fait, ont été mises au pas parce qu'elles ne sont plus indépendantes financièrement. Donc c'est bien, c'est utile, mais ce n'est pas comme ça, à mon sens, qu'on fera changer le système. Donc voilà, et après, le mot citoyen, c'est un mot qui est intéressant parce que j'aime bien ça, mais je me pense toujours, en fait, sur ce mot-là, à un cours que j'avais eu en droit et en sciences politiques, qui était la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et notre prof nous avait fait remarquer à juste titre, quand on reprend cette déclaration, il y a les droits de l'homme et les droits du citoyen, et ce ne sont pas les mêmes. Et à partir de là, on peut trier la population entre les êtres humains et les citoyens. Et effectivement, dans la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, il a dit, derrière, si on utilise ça dans un régime totalitaire ou dictatorial, ben, le citoyen, la déclaration des droits de l'homme sera et des citoyens sera respectée, parce qu'en fait, il y a deux catégories de personnes. Donc, moi, je préfère parler d'individus qui ont des droits plutôt que de citoyens, parce qu'effectivement, c'est déjà, on commence à faire un tri entre les personnes.
Bon, là, c'est justement en plein dans ce que l'on fait avec Étienne, à savoir le champ lexical. On fait des ateliers constituants lexicaux qui ont pour but de définir le sens des mots. Et effectivement, entre citoyen et individu, il y a bah, une différence qu'il est nécessaire de bien définir, ce qu'on essaye de faire avec Étienne. Stéphane, tu avais...
Oui, c'est très intéressant parce que là, nous, où la citoyenneté, nous y voyons une transversalité et donc un moyen de converger et un moyen de retrouver ensemble une forme d'humanité commune, toi, tu y vois une modalité de séparation. Est-ce que tu pourrais développer encore un petit peu plus à l'aune de ce que tu viens de nous dire? Parce que c'est vraiment très intéressant d'avoir ce point de vue qui, en fin de compte, montre bien, comme Cali vient de le dire, que la sémantique a tout son rôle à jouer dans le combat et dans les modalités de prise de pouvoir, mais aussi les capacités que nous avons tous à interpréter des mots différents, puisque simplement ce que nous trouvons à titre de démocrate, le mot citoyen et cette citoyenneté est un avantage, toi tu y vois un inconvénient. J'aimerais bien que tu puisses développer un petit peu cette notion dont tu viens de nous parler.
On va prendre un exemple historique. La démocratie de référence antique était Athènes. Et Athènes avait 40 000 citoyens. Au plus grand de ses heures de gloire, je crois, 40 000 citoyens. Et derrière, ça nécessitait à peu près plus de 100 000 esclaves, des métèques, donc des gens qui étaient étrangers, qui n'avaient pas de droit. Et ça avait aussi exclu à l'époque les femmes. Bon, après, ça, c'était l'époque qui était différente, mais les femmes étaient exclues de la citoyenneté. Ce qui veut dire que la démocratie athénienne fonctionnait avec des gens qui disaient c'est les citoyens qui votent, mais finalement les citoyens ne représentaient à peine 20% de la population. Donc c'est ce côté-là, en fait, déjà la démocratie donnée en modèle avec le mot de citoyen fait déjà un tri dans les gens, des individus qui vivent sur un territoire qui n'ont pas tous les mêmes droits au nom des citoyens. Donc moi c'est l'exemple le plus parlant que j'ai en tête pour vraiment clarifier la situation sur ce mot de citoyen.
Oui, tu t'arrêtes donc sur les modalités historiques. C'est pas la citoyenneté au sens où nous l'entendons dans une forme de modernité. Tu te bases dans ton raisonnement sur ce qui existait dans l'Antiquité. Mais est-ce que tu peux, à l'aune de ce que tu penses par rapport à cette citoyenneté basée sur l'Antiquité, est-ce que tu trouves que c'est un concept qui est projetable à notre époque? Est-ce que tu penses que la citoyenneté peut être justement mal utilisée et être source de division alors? Ah, je n'entends plus rien.
Oui, je crois que ça.
J'ai pas coupé, j'ai oublié de remettre mon micro, pardon.
Ah, voilà.
Non, je disais, j'étais en train de regarder la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et dedans, j'ai regardé la distinction où, en fait, il y a les droits des hommes de façon générale, hommes et femmes, donc avec un grand homme avec un grand H, et le côté où il y a des droits particuliers pour les citoyens. Et en fait, c'est ce côté, moi-même, dans le monde moderne qu'on peut vivre, en fait, c'est de se dire que pourquoi on ne parle pas de l'individu, réellement l'individu qui a des droits de base, et que pourquoi on veut rajouter catégorie supplémentaire qui est une possibilité, donc même avec toutes les bonnes intentions du monde, une possibilité de rajouter, de dire « Ah, mais un citoyen, ce n'est pas un individu n'importe comment, il a des droits en plus, il peut faire des choses en plus, parce qu'il est citoyen ». Moi, je pense que les droits doivent partir de l'individu, et à partir de là, c'est l'individu lui-même qui fait un contrat social, comme pouvait le dire Rousseau, avec la société où s'organise, plutôt sans avoir besoin d'avoir un corps intermédiaire de citoyen. Voilà, mais après, c'est peut-être que de la sémantique, et après, si on définit les mots convenablement, peut-être que je peux changer d'avis.
Oui, alors il ne s'agit pas du tout de faire changer d'avis, c'est de t'aider et de comprendre ta prise de position. Alors, moi, je peux préciser tout à fait ce que j'entends, en tout cas, je peux parler que pour moi, je crois que Cali partage à peu près la même chose. Nous, on fait de la politique dans le sens du terme où la politique, c'est la gestion de la cité. Et la gestion de la cité contient des citoyens. Alors, ces citoyens sont tous des individus différents, avec des opinions différentes, religions ou des spiritualités différentes, des sexualités différentes, des capacités intellectuelles, physiques différentes. Donc, on est dans la multitude de la citoyenneté représentée par des individus, et on emploie le mot citoyen dans le sens de où chaque individu s'œuvre et s'active à la gestion de la cité. C'est dans ce sens-là que nous l'entendons. Et c'est vrai que c'est la première fois que j'entends une prise de position telle que la tienne, et que, effectivement, c'est super intéressant, parce que je n'y avais jamais pensé, et que je ne voyais pas le côté négatif dans ce mot citoyen. Alors, je ne sais pas si, une fois précisé ma pensée, la façon dont je vois les choses, et dont on est nombreux d'ailleurs à voir les choses, si ça peut coïncider un petit peu, sans essayer de te convaincre, mais si cette définition te paraît cohérente, du moins.
Bah, si un citoyen, c'est un habitant de la cité, c'est cohérent, mais ce que je veux dire, à partir de là, par exemple, un habitant de la France, c'est un Français, du coup, ou un habitant de Bretagne, c'est un Breton. Donc, le mot citoyen, en fait, devient, pour moi, superflu. C'est pas plutôt que je compte le mot citoyen, c'est que je trouve qu'il a pas d'utilité supplémentaire par rapport à une démocratie directe. Par contre, ça peut être un danger à utiliser contre les individus en disant on a créé une droit des citoyens qui ont des droits particuliers parce qu'ils sont citoyens et que ça va au-delà de l'individu. Voilà, après c'est juste un risque possible, mais malheureusement dans l'univers dans lequel on vit, voilà, si les gens qui habitent en France sont les Français, pourquoi rajouter le mot citoyen ? C'était juste ça. Après c'est un débat sémantique, mais je pense que sur la philosophie générale, nous sommes d'accord vu que chacun doit pouvoir avoir les mêmes droits. Voilà, c'est juste rajouter un mot sémantique entre les deux qui peut, à mon sens, être dangereux, mais qui n'est pas dangereux en soi.
Non, mais j'entends bien. Je te remercie en tout cas de ces précisions et cet éclairage très surprenant, comme beaucoup de fois ta pensée l'est avec beaucoup de pertinence. Et je te remercie de cet échange. Cali, je te laisse enchaîner.
Oui, bah on a Chico qui est monté, qui a peut-être une question à poser à Alexandre. Bonsoir Chico.
Alors bonsoir. Moi, je voulais demander à M. Langlois vers quel parti politique en France il est le plus représenté.
Aucun, parce que je crois malheureusement que les partis politiques aujourd'hui, ils font partie du problème de l'équation, et je pense que c'est encore un autre filtre qui empêche le pouvoir des Français. C'est pour ça que la dernière récente idée de mettre de la proportionnelle, où quasiment tous les partis politiques étaient d'accord, parce que ça leur redonne du pouvoir à eux, pour nous spolier de notre liberté, où ils vont pouvoir contrôler qui a le droit de se présenter encore plus. Donc je pense qu'ils font plus partie du problème que de la solution, les partis politiques, et qu'aujourd'hui, ils ont tout intérêt à garder un système représentatif et à surtout pas passer à une démocratie. Donc après, par contre, à l'inverse, il y a des individus dans chaque parti politique qui peuvent être intéressants et des philosophies qui peuvent être intéressantes, mais en soi, les partis politiques, non, j'y crois plus aujourd'hui.
Finalement, Alexandre, tu es totalement en acceptation de la note sur la suppression générale des partis politiques de Simone Veil. Puisque tu considères que...
Oui, je l'ai pas lu, donc faut que tu développes. J'aime beaucoup Simone Veil, donc il y a pas de raison que je sois pas d'accord. Et en plus, si elle a proposé ça, je vais là. Mais du coup, j'irai la lire. Mais si tu peux me faire un petit résumé de la teneur de sa note, je suis intéressé.
Oh bah donc Simone Veil, la philosophe, hein, donc avec un W, qui effectivement a fait une petite note. Je te la trouverai, je te la mettrai. Je vais l'épingler ou je te l'enverrai en MP. Qui a fait une petite note de 22 pages, selon l'édition, une vingtaine de pages très simples, où elle reprend un petit peu les travaux, où elle exprime que les partis politiques sont finalement antidémocratiques dans leur structure. Pour le faire simple, les partis politiques ont trois objectifs, trois ambitions. La première qui est de créer de l'émotion collective pour fédérer au maximum autour d'elle. Deuxièmement, éteindre toute opposition et velléité à l'intérieur même du parti pour éviter la désunion et donc d'affaiblir le parti. Et la troisième ambition, c'est de grossir le plus possible et sans limite. Et c'est cette troisième ambition qui finalement additionnées aux deux précédentes, les rend antidémocratiques, puisque le but, c'est de générer de l'émotion collective et non pas de la réflexion collective, qu'une fois les personnes captées, le but, c'est de les éteindre, de les empêcher de réfléchir et de faire en sorte de s'étendre le plus possible pour atteindre la masse critique permettant d'atteindre le pouvoir. Donc, l'ensemble de ces fonctionnements amène à considérer que les partis politiques sont le danger du système républicain qui rend ce système antidémocratique. Voilà. Mais je t'enverrai ça, c'est une note qui est très intéressante à lire. Effectivement.
Je partage en partie l'analyse, donc ça me fait, je lirai avec intérêt.
Ouais, je t'enverrai ça, je le partage assez souvent parce que c'est quelque chose qui est très rapide à lire, très simple, et qui, en une vingtaine de pages, permet de bien comprendre en quoi les partis politiques sont le problème même du fonctionnement de notre système, au-delà de tous les aspects ensuite constitutionnels, juridiques et autres. Hein. Mais structurellement, pour ceux qui sont des systémistes et qui s'intéressent au système politique, on comprend bien par ce biais-là que le parti politique, les partis politiques sont le premier problème de ce fonctionnement.
Je viens d'épingler un lien pris au hasard par Amazon et je vais te le transmettre, Alexandre, sur la fameuse note dont parle Camille concernant les.
Oui, après il est en accès libre hein, j'ai plus le site, mais je vous le retrouverai, ça demande 2 secondes, il est en accès libre. Il vous suffit d'ailleurs d'aller sur Google, vous tapez note sur la suppression générale des partis politiques et vous tombez très rapidement sur le lien. Chico, c'est bon pour toi? Je pense que la réponse était un peu plus claire, pas de partis politiques pour éviter les clivages et le côté partisan qui oppose aux autres partisans. Merci.
Juste une précision encore sur le parti politique. Il y a aussi une autre chose qui me gêne aussi dans la structure actuelle, c'est qu'aujourd'hui les partis politiques font des programmes. Donc ça rejoint un peu la note de Simone Veil qui disent on fait des programmes et il faut être d'accord quand on adhère à un parti politique du point 1 au point 500 du programme. Et en fait, on ne se retrouve plus avec un débat d'idées, on se retrouve avec un débat dogmatique en disant voilà, il y a tout ça à prendre en bloc. Et ce que je reproche aux partis politiques encore plus dans la cour de récréation qu'on a aujourd'hui en France, c'est que moi j'aimerais bien prendre l'idée de tel parti pour ça, de tel parti pour ça, de tel parti pour ça, et qu'en fait, si chaque personne en France pourrait faire le même choix, on aurait quelque chose de cohérent par rapport aux attentes des gens, parce que chacun pourrait prendre les mesures qui les intéressent à droite et à gauche. Et aujourd'hui, on nous empêche de le faire. On nous dit si tu as dit que tu étais d'accord avec telle ligne de tel parti, c'est soit que tu es un fasciste, soit un islamo-gauchiste, soit un macroniste, alors que tu dis moi j'aime bien juste cette idée et c'est pas pour ça que je cautionne tout le programme. Mais aujourd'hui, comme tu l'as rappelé, là, du coup, on te dit si tu es d'accord avec le point 1, tu es forcément d'accord avec nous jusqu'au point 500. Donc en fait, ça limite le débat d'idées et en plus, ça encourage, je pense, justement le dogmatisme qui est loin d'aider à la réflexion.
Exactement. Encore une fois, je vais me permettre d'expliquer parce que tout le monde sur ce space n'est pas forcément à un niveau de conscience de ce qu'est la démocratie et qu'elle s'oppose à la République représentative qui fonctionne. J'explique souvent à des enfants qu'il y a une différence entre élire et voter. Quand on élit une personne qui va décider pour nous. Et quand on vote choix par choix. C'est un petit peu comme d'imaginer un supermarché. Aujourd'hui, quand vous êtes dans votre supermarché, vous remplissez votre caddie avec les articles que vous souhaitez. Ça, c'est voter. Élire, ça serait d'avoir le choix entre magasin A, un magasin B, un magasin C. Et chaque magasin a un caddie type. Et vous ne pouvez pas déroger des articles qui sont fournis dans le caddie du magasin. Donc forcément, vous êtes obligé de faire un choix. Soit je vais prendre le magasin A parce qu'il y a un maximum d'articles qui me conviennent, mais dans le caddie que vous vend le magasin A, il y a forcément des articles que vous n'aimez pas, que vous ne consommerez pas, et puis il y a des articles qui vont vous manquer. Et ça, c'est ce qu'on veut vous vendre comme étant un système juste. Personne n'accepterait de faire ses courses de cette manière-là, et pourtant, politiquement, c'est ça qui nous est vendu. Voilà. Excusez-moi pour cette petite précision. Peace, bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci de me donner la parole. Je me réjouis de pouvoir discuter avec Alexandre en direct, puisque Alexandre a déjà pris position publiquement en faveur du RIC constituant, donc ce qui est un peu notre cas des gens qui ont un peu creusé la question de la démocratie. Également parce qu'il connaît la désobéissance civile. Je l'ai entendu récemment, je crois que c'était lors d'un live avec Didier Maesto, parler de comme quoi nous pourrions oublier fortuitement des bagages dans les transports en commun pour bloquer les transports en commun. Et donc, moi, je voudrais insister ce soir, ouvrir une petite parenthèse et ensuite ouvrir le débat pour quelque chose qui est assez peu souvent évoqué dans nos conversations. Et ça permettra à Alexandre, qui connaît bien les forces de l'ordre, de partager son expérience, comme il disait tout à l'heure. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, donc on a déjà évoqué que les voies légales, élections, manifs, grèves, pétitions, tout ça, c'est un peu vain pour le moment, en tout cas. Et il n'y a pas de raison que ça s'éclaircisse, franchement, dans les mois qui viennent. Et moi, je voulais aborder ce soir la désobéissance civile. La désobéissance civile, moi, je l'ai découvert en sortie de premier confinement. J'ai eu l'occasion de participer à un atelier de désobéissance civile organisé par les écolos. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un atelier de désobéissance civile? C'est sur une journée ou deux journées. Ça permet d'apprendre des techniques simples. Un, pour maximiser l'impact médiatique des actions, notamment en savoir rédiger un communiqué de presse. Et deux, minimiser les risques juridiques. C'est là où Alexandre pourrait nous apporter beaucoup. Juste pour vous donner un exemple, sachez que José Bové et les faucheurs volontaires ont utilisé la désobéissance civile et ça a débouché sur des avancées législatives. Le Parlement français a légiféré pour limiter les OGM en France et ça a même ensuite débouché sur une législation européenne. Donc ça fonctionne, on pourrait multiplier les exemples. Alors si on se lançait dans des désobéissances civiles pour la démocratie, il faudrait trouver une cause, un message simple. Il nous faudrait quelque chose donc de simple, de puissant et aussi de rassembleur, parce que l'idée c'est de créer du nombre. Hein. 80% des Français détestent Macron, mais où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent donner des outils. Et il se trouve que le RIC constituant, donc il est simple, parce qu'il suffirait de modifier, il suffirait entre guillemets de modifier l'article 89 de la Constitution actuelle. Il est puissant parce qu'avec ça, les citoyens peuvent tout faire démocratiquement, hein, puisque ça débouche à un système de pétition, puis débat, puis référendum. C'est de la pure démocratie. Et enfin, il est rassembleur, puisque vous l'avez compris, lancer des pétitions, c'est accessible à tout le monde, que vous soyez de droite, de gauche, du milieu, du dessous, d'à côté. Tout ça, ça vous concerne même, je dirais que ça concerne d'autant plus ce qu'on appelle les bannis, ceux qui votent blanc et les non-inscrits. Eux pourraient se déplacer pour des référendums sur des thèmes bien précis. Et on revient là sur ce que disait Alexandre tout à l'heure, plutôt que les partis en silo, on accepte tout le programme. Là, on pourrait juger dossier par dossier, on pourrait voter et décider, non plus élire des représentants. Donc pour moi, voilà, il faudrait utiliser la démocratie et mettre en avant le RIC constituant par l'article 89. Alors, juste pour développer un petit peu, en matière de désobéissance civile, on décline ce qu'on appelle la stratégie de l'escalier. La stratégie de l'escalier, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, ben, on va gravir des marches. Et les premières marches, ce sont des actions légales et gentilles, etc., qui respectent la loi. Par exemple, là, la commission des lois du Parlement va étudier deux pétitions concernant le RIC constituant. Donc, les trois premières se sont déjà fait shooter, ont été classées verticalement. Donc, il va y avoir, dans le courant du mois de février, probablement, on n'a pas la date encore. Donc, ça pourrait constituer la première marche. Et ensuite, les marches suivantes, comme on est face à un premier refus, on va pouvoir monter en gamme. Donc moi, j'ai déjà commencé à réfléchir à quelques actions, mais on pourrait imaginer des dizaines, des centaines, c'est là où on a besoin de nombres pour mettre tout ça noir sur blanc. Mais on pourrait imaginer, par exemple, d'envoyer nos cartes d'électeurs en recommandé au préfet, en mettant un petit flyer sur le RIC et sur l'article 89. On pourrait aussi, toujours avec cette symbolique de la carte d'électeur, hein, brûler la carte d'électeur, et ça va intéresser les médias. Pourquoi vous brûlez votre carte d'électeur? C'est que vous êtes contre la démocratie. Et là, on retourne la médaille en disant non, c'est justement parce qu'on veut de la démocratie. Donc, ça nous ouvre un champ de parole. On pourrait aussi donc brûler nos cartes. Le feu de la Saint-Jean, c'est quand j'étais gamin, près de chez moi, il y avait un feu de la Saint-Jean. Ça se passe aux alentours du 20 juin. On pourrait organiser partout en France des rassemblements pour brûler symboliquement nos cartes électorales. Par exemple, on pourrait s'attacher à un poteau devant la mairie. Je me mets une grosse chaîne autour du cou. Mais si l'idée m'est venue parce que j'ai acheté une moto, il y a un gros antidol avec. Et je peux vous dire que je m'attache avec une grosse chaîne autour du cou à un poteau et je file la clé à un copain qui s'en va. Et là, les flics, pour me déloger, ils peuvent pas, quoi. Soit faut qu'ils coupent le poteau par le haut parce qu'ils peuvent pas avoir une grosse pince, elle sera pas assez puissante. Une scie sauteuse, ils oublient parce qu'ils pourraient m'assassiner. Donc je suis là, et on pourrait se relayer même pendant 24 heures ou pendant des semaines, que sais-je. Voilà.
Alors, on va laisser. Oui, si tu peux finir, ouais, vas-y.
Ouais, j'en ai pour une minute. Je voudrais aussi évoquer l'article 122.7 du Code pénal, qui est l'état de nécessité. Et là, je vous le lis en 30 secondes. Je retrouve ma note, il est là. En droit français, l'état de nécessité est une cause d'irresponsabilité pénale qui permet à une personne d'échapper à une condamnation lorsqu'elle a commis une infraction pour éviter un danger grave et imminent. Il y a trois conditions pour évoquer l'état de nécessité. Le danger doit être actuel, grave et imminent. Il doit s'agir d'une menace immédiate et sérieuse pour une personne ou des biens. Deux, l'acte commis doit être proportionné au danger. Et trois, il ne doit pas y avoir d'autre alternative. Donc moi, je considère que les citoyens français sont en état de nécessité par rapport à la démocratie qui brûle. Et donc, ça pourrait, imaginons qu'un tribunal, suite à une action de désobéissance civile et qui serait un peu punchy, y ait des procès. Bah, imaginons qu'un juge dise « oui, je classe le dossier sans suite puisque les Français sont en état de nécessité par rapport à la démocratie ». Voilà, j'en ai terminé. Merci de réagir par rapport à tout ça.
Merci, Peace. Alors, il y a Alexandre qui a peut-être eu un problème de connexion. On va lui laisser le temps de remonter. Chico, tu avais peut-être quelque chose à préciser, parce que j'ai vu que tu as ouvert plusieurs fois ton
Ouais,
micro.
j'ai quelque chose à
Alors.
préciser parce que j'ai bien entendu avec attention le thème, moi, du monsieur, mais en fait, la désobéissance civile, monsieur, c'est pas un pouvoir politique. Donc la désobéissance civile, qui c'est que ça va toucher comme gens intéressés? Certainement des gens politisés. Mais la majorité du peuple de France ne suivra pas votre désobéissance civile. Donc ça peut exister au sein de votre entourage, au sein des gens politisés, mais comme je l'ai dit. Mais en fait, même si vous attachez un poteau, monsieur, même si vous jetez de la tomate sur des œuvres d'art, même si vous allez sur des autoroutes pour bloquer les voitures, ce qui va vous arriver, c'est que vous allez aller au poste de police. Et en fait, c'est contre-productif la désobéissance civile. L'obéissance civile, ah ben là oui. Alors brûler des cartes d'électeurs, alors c'est une belle idée, hein, bien sûr, mais en fait, si vous brûlez votre carte d'électeur, pourquoi vous voulez instaurer un contre-pouvoir politique dans ces cas-là? Parce que vous aurez besoin de votre carte d'électeur, et surtout les gens auront besoin de leur carte d'électeur pour voter pour vous.
Alors,
Donc en fait, tout ça, c'est un gloubi-gouba, comme on dit, de bonnes mesures censées, mais en fait, qui sont insensées dans le terme du résultat. Dans l'action, ça peut être intéressant, hein,
on va
mais
laisser.
c'est ridicule en 2025.
Alors, Chico, essaye de ne pas être dans l'invective. Chacun a le droit d'être force de proposition, quand bien même pour d'autres, ces propositions peuvent sembler dérisoires ou inutiles. Mais voilà, il faut accepter effectivement qu'on ait toutes ces divergences de position ou d'ambition. Je vais te demander de couper ton micro
Évidemment.
pour pouvoir laisser Alex répondre justement à ce que Peace a développé, à savoir cette idée de la contestation telle qu'il l'a présentée. Attends.
Déjà, il y a une première chose, c'est que les juridictions en moyenne ne sont pas très gentilles, sont de moins en moins gentilles avec les gens qui sont contre le pouvoir politique en place. Je rappelle qu'Emmanuel Macron avait dit, les procureurs de la République sont aux ordres du pouvoir exécutif, et on a pu le voir dans différentes manifs où c'est eux qui signaient les gardes à vue de tout le monde et qui gardaient les gens 48 heures en garde à vue. Donc au niveau de la justice, je ne suis pas très confiant pour derrière des opérations sur l'état de nécessité que ça marche. Ils vont dire ça va pas aller. Même chose pour les gens qui s'enchaînent pour l'avoir vécu, et des gens qui s'étaient enchaînés à des mairies ou des choses comme ça. Et après, l'État, ce qu'a essayé de faire, ils ont essayé de dire c'est des gens qui sont fous, faut les interner. Et c'est pas pour rien, je pense, que cette année, qu'ils ont mis sur le côté la santé mentale, une de leurs priorités, plutôt que de se dire comment on arrête de rendre les gens fous, ils disent on va plutôt enfermer les gens qu'on a rendus fous. Donc il y a ce côté-là aussi. Ensuite, sur les actions qui peuvent être drôles, la carte d'électeur, on peut la brûler, ça ne change pas grand-chose, on peut même voter sans carte d'électeur, donc c'est purement symbolique. Mais après, des fois, il faut les prendre à leur propre jeu. J'avais lancé un truc, je me suis mis de côté, que j'avais mis sur les pétitions qu'on peut mettre dans les assemblées, l'Assemblée nationale, comme tu as bien rappelé, Pise, c'est que ben justement, ils les mettent à la poubelle quand ça ne les arrange pas. Donc celle sur l'article 89, elle passe régulièrement à la poubelle, même si le nombre de gens sont atteints. Et la même chose sur les braves M, ils l'avaient mis à la poubelle aussi à l'époque. Il y en a une qui atteint le nombre de gens, ils disent, hop, avant que ça arrive vraiment au bon nombre, on va casser le système. Donc, c'est qu'en fait, ils ont mis en place un système. Vous pouvez faire des pétitions, mais si jamais elles peuvent aboutir à qu'elles ne nous plaisent pas, on va la classer sans suite, nous, directement. Voilà. Donc, il y a ce côté-là aussi où ça ne sert pas forcément derrière, mais les prendre dans leur propre jeu. En ce moment, il y avait un débat sur est-ce que Emmanuel Macron va faire un troisième mandat. C'est donc de faire une pétition en disant bah, nous, on va demander un troisième mandat pour Emmanuel Macron. Et ça, du coup, ils peuvent pas te dire non, parce que bah, du coup, c'est leur volonté aussi, ça les intéresse. Mais du coup, quand ils vont te filer un micro et te donner la parole, tu vas dire bah, attendez, moi je fais ça parce que c'était pour montrer l'absurdité de la chose. Et en fait, c'est de faire des propositions qui sont dans l'intérêt de la Macronie, comme ça, de façon apparente, et derrière, pouvoir leur casser du sucre en démolissant l'argument qu'on a mis en place. Mais c'est déjà qu'ils ne peuvent pas bloquer l'accès en disant autant dire que tu arrives en disant je veux plus les Bravem, je veux l'article 89, etc. Ils vont te dire poubelle. Tu dis ah moi je pense que Emmanuel Macron est tellement intelligent qu'il faut qu'il fasse un troisième mandat. Bah, ils vont pas pouvoir la classer sans suite parce que sinon Macron va pas être content. Donc, du coup, c'est de trouver des idées pour les prendre à leur propre. La même chose, pendant la crise Covid, il y avait une chose qui était intéressante. Il y a plein de gens qui appelaient pour délation de leurs voisins qui ne respectaient pas le confinement ou des choses comme ça, ou je ne sais pas quoi, les distances de sécurité. Enfin, tout ça, c'était des amendes à 135 euros. Donc, pour montrer l'absurdité de la chose, c'est de dire, bah, maintenant, dès que quelqu'un grille un stop devant vous, vous appelez. Et personne n'appelle pour un stop à 135 euros. Alors pourtant, l'infraction est du même niveau. Et les appels 17 n'étaient pas saturés pour ces choses-là. Donc en fait, c'est de trouver des systèmes pour justement les bloquer. C'est pour ça que le cas que tu disais aussi, dire qu'on pouvait oublier des sacs dans le métro, effectivement, dès qu'il y a un bagage oublié, ça c'est leur système qu'ils ont mis en place. C'est de se dire, les règles qu'ils ont mises, on dit dès qu'il y a un bagage oublié, périmètre de sécurité, on vous fait peur, message anxiogène pour vous garder bien obéissant, et bien là, il suffit d'un groupe de allez. 20 personnes qui oublient leur bagage dans les métros parisiens, etc., dans les trains, ça fait des périmètres de sécurité où les forces de police n'ont pas assez de démineurs pour pouvoir se déplacer partout. On voit l'absurdité du système parce que finalement, la plupart du temps, c'est des gens qui oublient leur sac. Et sinon, le temps que les services de déminage arrivent, de toute façon, si quelqu'un avait vraiment voulu mettre une bombe, ça fait longtemps qu'elle aurait explosé. Donc, de toute façon, leur système de sécurité n'est pas adapté pour protéger la population, juste pour lui faire peur. Et derrière, c'est une amende. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on peut se balader masqué pour des raisons de santé. Donc, les gens qui peuvent oublier leur sac peuvent se masquer. Donc, on a une de leurs directives. Et si jamais par hasard ils ne voient pas le sac oublié aux caméras, etc., un bon samaritain peut prévenir les services de police en disant à quelqu'un qui a oublié son sac et on ne pourra pas lui reprocher d'avoir prévenu. Au contraire, on devra lui donner une médaille. Donc en fait, utiliser leurs armes pour les retourner contre eux et montrer l'absurdité de ce qu'ils sont en train de faire. Et là, en fait, c'est de les prendre à leur propre piège en disant on a mis un masque pour pas du tout pour se camoufler, mais parce qu'on voulait se protéger. Il y a quelqu'un qui est venu dénoncer les choses et en fait, vous avez vu que l'absurdité de la chose, on a bloqué tant de lignes de métro, voire des aéroports. Les aéroports non plus, ils n'aiment pas parce que ça leur coûte des millions d'euros dès qu'un aéroport est bloqué. Donc il y a toutes ces choses en fait où on fait appliquer le plus bêtement la loi et pour les mettre en contradiction. Je repense même plus, par exemple à un autre exemple, c'était pendant aussi la crise Covid. Il y a un moment, on avait le droit de sortir pour promener son animal, mais pas faire du sport. Donc j'ai une collègue qui était un petit peu taquine, qui a posé la question, si quelqu'un sort se promener son chien, que son chien s'échappe et qu'il court derrière, il est considéré faire du sport ou il est considéré être en train de promenade de chien? Donc au bout d'un moment, les textes qui nous pensent sont tellement lunaires qu'on peut les détourner pour faire des trucs rigolos. Et c'est toutes ces failles et toutes ces choses, donc si chacun dans son domaine peut avoir des idées, de retourner tout ce qu'ils mettent en place pour dire, voilà, c'est absurde, et avec cette absurdité, on peut faire le buzz.
Oui, effectivement, c'est intéressant cette notion qu'on a déjà abordée, c'est la question du piratage. Effectivement, et il y a deux formes de piratage. Hein. Il y a effectivement, comme tu l'expliquais, le fait d'être dans une volonté de nuisance, mais parce que c'est leurs règles qui le sont de fait, hein, laisser effectivement des sacs dans les transports. Donc, en fait, on organise par ce biais une sorte de blocage du système. On le met en code erreur 404 et à défaut. Et puis, il y a donc... Un autre aspect qui est le principe en quelque sorte qui est celui que eux utilisent, hein, le principe de la fourberie. On en a eu un exemple récemment après que sur une radio, un auditeur lors du filtrage par l'accueil s'est présenté comme voulant poser une question et quand il était en direct face à Manuel Valls a dit les quatre vérités qu'il pensait de ce personnage. Ça fait un gros buzz parce que justement il a pirater le système. Le système filtre les auditeurs pour que seul le consensus et la parole unique puissent être propagés. Eh bien, il y a une possibilité qui est tout simplement de ne pas être dans l'honnêteté. C'est-à-dire que quand on arrive au standard, de ne pas dire « ouais, ce mec-là, c'est une ordure », mais de dire « je voudrais féliciter ce personnage qui a été l'un des grands hommes de notre vie politique ». Et puis, une fois arrivé à l'antenne, tenir le discours inverse, qui est un discours de vérité, que peu, finalement, dans les médias mainstream, peuvent entendre à cause de ce système du filtrage des standards. Voilà. Donc, et ensuite, pour revenir très vite sur un petit point que tu as abordé, Alexandre, concernant l'éventualité d'un troisième mandat, je tiens quand même à rappeler que Emmanuel Macron est sur le point de nommer Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel, qui lui-même s'était positionné comme favorable à un troisième mandat d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on a Emmanuel Macron qui va nommer au Conseil constitutionnel, qui est en capacité de faire justement évoluer et accepter une évolution de la Constitution qui lui serait favorable, pour montrer à quel point on est dans un système qui est totalement dysfonctionnant, voire corrompu. On avait Sowat, mais qui est redescendu, soit par problème, soit par manque de temps ou de patience. Donc, est-ce que Stéphane, que j'ai pas d'autres questions là, Stéphane, est-ce que tu avais... Ah si, j'avais une question, si Stéphane ou les autres auditeurs intervenants n'ont pas de questions. J'avais une question, moi, sur ce que tu as dit tout à l'heure, Alexandre, concernant le localisme, le fait de passer par les municipales pour changer les choses, quand tu disais que tout est centralisé et passe par Paris. Alors oui, tout est centralisé et passe par Paris. Mais finalement, on se rend bien compte qu'il y a une incapacité, une impossibilité à approcher du pouvoir quand on est dans un principe qui se veut démocrate ou citoyen ou respectueux de la population. Et en fait, cela passe aussi par une problématique locale. Parce que quand on regarde le nombre de petites communes, moins de 1000 habitants, c'est un nombre qui est significatif. Et du coup, il est possible, pour faire simple, là, on a quasiment un an et demi avant les élections municipales, quand on a une commune qui fait moins de 1000 habitants, il est tout à fait possible pour une équipe un petit peu organisée d'aller à la rencontre de ses habitants et de faire comprendre ce que nous discutons ce soir. Et comme cela, essayer de capter une municipalité et en fait quelque chose qui soit plus respectueux des citoyens et de la démocratie. Alors oui, ça oblige à être confronté aux problématiques financières, des dotations liées à l'intercommunalité, toutes ces choses-là. Néanmoins, ça permet d'avoir un ancrage local pour les parrainages, parce que finalement, qu'est-ce qui, toi, t'a empêché de pouvoir exister au niveau des élections pour pouvoir avoir une parole qui porte en plus de celle des autres? Bah, c'est le fait que tu n'as pas pu obtenir tes parrainages. Si tu avais eu 500 petites communes qui auraient été prêtes à te donner la parole, bah, tu aurais pu la prendre. Et ça, c'est ce qui manque. Et puis, ça a aussi une action au niveau des sénatoriales. Donc, j'aimerais savoir en quoi, finalement, tu penses que c'est vraiment par le haut que les choses vont pouvoir être changées, alors que le système est fait pour qu'on ne puisse pas atteindre le sommet si on n'a pas une base étendue au niveau local, quoi.
Effectivement, tu résous le problème des signatures avec une base locale, ça c'est sûr, mais après encore faut-il s'entendre sur qui envoyer, parce que du coup, le problème des gens qui veulent résister au système, chacun pense avoir la bonne solution dans ceux qui s'organisent en parti pour présenter aux élections, et du coup ça ne fait encore plus de division, ou si on en retombe sur le dogme pareil de chacun fait son truc. Donc, et une fois qu'on a passé la barre, parce que certains qui avaient réussi à hacker le système comme Asselineau ou comme il s'appelait Monsieur Cheminade aussi, mais au final derrière s'ils n'ont pas le relais médiatique de la masse, c'est pareil, c'est foutu. Donc en fait il faut à la fois effectivement avoir les 500 signatures, donc ça au niveau local parfait, surtout que si les gens n'attendent pas grand chose des dotations de l'État, bah, ils s'organisent eux-mêmes et montrent comment on peut se passer de l'État, donc pourquoi pas à titre d'exemple. Et la deuxième chose derrière, pour hacker le reste, parce que après tu ne changeras pas le système juste avec les municipales, tu pourras organiser quelques points de choses, mais au final ce sera pour la présidentielle qui verrouille au fur et à mesure des élections pour qu'il y ait moins de possibilités de passer par là. Sur les sénatoriales, les sénateurs n'ont pas tellement de pouvoir, ils nous coûtent bien cher, mais au final, à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils ont un rôle de ralentissement des procédures, de fois de rajouter des choses, mais au final, ils ne font pas grand-chose de tranchant, à part au niveau de la Constitution, mais encore, faut-il qu'ils soient réunis en congrès avec l'Assemblée nationale. Et l'autre chose pour gagner une présidentielle, après s'il y a une autre idée aussi, c'est de se dire qu'on financement participatif pour plein de choses, bah, c'est de se dire, bah voilà, maintenant est-ce que les gens veulent changer le système, on met une cagnotte avec financement participatif pour dire on veut une campagne pour tel sujet, et si on n'a pas les 25 millions d'euros maximum pour faire la campagne, c'est-à-dire pouvoir acheter tout ce qu'il y a besoin au niveau de la presse, etc., pour vivre avec les armes du système corrompu, bah au final ça ne servira à rien. Donc peut-être participer à une conquête de pouvoir, mais ça, si on s'arrête juste au municipal, ça ne fera pas grand-chose, malheureusement, à mon sens.
Oui, non, bien sûr, c'est un ensemble. Et d'ailleurs, avant de passer la parole à Stéphane et Pascal, ce que tu viens de dire m'a fait un petit peu résonance. Quand tu parles de cagnotte ou d'organisation de système économique pour soit une élection, mais dans le principe de contestation, on a eu dernièrement un syndicat que tu connais bien, Alliance Police, qui a organisé une manifestation devant l'Assemblée nationale parce que dans le budget n'est pas encore définie la dotation pour le ministère de l'Intérieur et pour les forces de l'ordre. Quand on parlait des manifestations et du fait qu'aujourd'hui, si elles étaient peut-être un petit peu moins existantes, c'est parce que il y a peut-être une crainte, une peur vis-à-vis des forces de l'ordre, il pourrait être d'ailleurs éventuellement intéressant de réfléchir à l'organisation d'un fonds destiné à finalement apporter une forme de soutien économique à la police, qui du coup serait moins dépendante du système en place. C'est-à-dire que si jamais les citoyens disaient « bon, bah, écoutez, plutôt que de laisser la police être rémunérée pour nous taper dessus, et si nous organisions le financement de notre police nationale, mais pour qu'elle soit peut-être un petit peu plus à l'écoute des citoyens quand ils ont quelque chose à dire. » C'est voilà, une piste lancée comme ça vraiment très rapidement. Stéphane et ensuite Pascal.
Oui, alors deux choses qui n'ont pas… quoique grand rapport entre eux. J'entends dans ton discours, Alexandre, une forme, pas forcément d'abandon, mais pas non plus de désœuvrement, pardon, mais plutôt une forme de lassitude sur le combat politique, peut-être dû à l'échec que tu as vécu. Et tu parlais tout à l'heure de la présidentielle, mis en perspective par rapport au discours et à la question que tu viens de poser, Kali, sur les municipales. Et tu es un acteur plus qu'actif au sein des médias alternatifs, puisque tu chroniques, et tu chroniqueras d'ailleurs demain matin avec Régis de Calcestino sur Toscain. Et néanmoins, tu penses que, alors que tu y participes à cet essor médiatique de la presse dite entre guillemets résistante, alternative, par opposition à ce que moi j'appelle la presse d'État, hein, parce qu'on dit aussi mainstream, mais enfin c'est vraiment une presse d'État. Et malgré que tu fasses partie de cette formidable aventure, par exemple, de Toscan, qui elle, monte de plus en plus et finit par avoir des statistiques médiamétriques qui sont supérieures à des chaînes institutionnelles. Tu restes sur la réserve et sans grande illusion sur un combat dans lequel tu participes en tant que chroniqueur. Est-ce que tu n'y vois pas une forme de dualité, ou comment tu peux expliquer ce discours très modéré et parfois aquaboutiste que tu tiens sur le combat politique?
Là, c'est plutôt en fait le combat politique, et ça dépend de comment on le définit. Si on le définit dans les règles de la Ve République, effectivement, ça me semble compliqué, parce que du coup, nous, c'est comme si, pour résumer très simplement, on nous dit, bah voilà, on va jouer une partie d'échecs, et puis on vous file les règles du jeu de dames. Effectivement, on perd à chaque fois, hein, parce qu'on n'a pas les bonnes règles. Donc du coup, quand on joue face à des tricheurs, effectivement, c'est compliqué de gagner. Et en plus, des tricheurs qui changent les règles régulièrement suivant leurs besoins. C'est ce qu'on a pu voir, donc c'est un peu reparler de la Constitution. À chaque fois qu'ils ont un souci, ils changent les règles. Et sans nous demander notre avis, d'ailleurs, ce qui pose problème. Donc c'est plutôt une lassitude vis-à-vis de se battre contre des boulins avant, en fait. On a un système qu'ils ont verrouillé, qui change les choses. Donc en fait, ils peuvent que être gagnants et nous que perdants, en fait. Donc au bout d'un moment, c'est de savoir comment on peut dépenser son énergie. Donc le fait effectivement de hacker des communes pour avoir les 500 signatures, essayer d'avoir une caisse commune générale pour pouvoir avoir un financement et intéresser les médias d'État qui soient obligés de parler. Et aujourd'hui, on a aussi une chance, c'est que il y a aussi une chose qu'on oublie. Donc il y a tous les médias alternatifs qui montent, donc qui informent, mais aussi la presse étrangère que la Macronie et le système français ou européen ne peuvent pas canaliser quand ça vient extra-européen. Donc il y a tout ce côté-là. Donc moi, la lassitude n'est pas politique, la lassitude est de se battre contre un système qui triche. Voilà. Donc c'est de comment on arrive à retourner la triche contre eux.
Oui, d'accord, j'entends bien. Alors du coup, d'où ma seconde question, est-ce que tu pourrais nous apporter un petit témoignage, pas forcément sans rentrer dans l'intimité, de la façon dont tu as vécu ta candidature, de savoir justement ce qui te mène à plus de tempérance, alors que tu as quand même été saisir l'étendard et que tu t'es quand même présenté à la candidature suprême. Donc c'est intéressant de voir ton ressenti et de la façon dont tu as pu vivre tout ça, et quelles sont les plus grandes adversités que tu as pu rencontrer, les plus grands échecs et aussi les plus grandes joies que tu as pu connaître dans cette candidature.
Déjà, les plus grandes choses, c'est rencontrer plein de gens super et engagés qui se disent on va y aller. Donc ça, c'était cool, et ça fait pas mal des choses incroyables. Après, c'est la chose la plus difficile, c'est qu'à la fin, on sort rincé. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps. À la fin, je suis parti quasiment au burn-out. Donc j'ai tout arrêté parce que j'étais complètement lessivé. Donc ça, c'est les points les plus extrêmes de joie et de choses déceptives. Après, sur le reste, c'est d'avoir pu voir le système de l'intérieur. Donc ça, c'était très intéressant de voir comment on verrouille les parrainages, comment on verrouille les signatures, comment les médias d'État gèrent les candidatures. Donc il y a certains qui ont fait le jeu de faire des articles, je pense à Ouest France ou le Nouvel Obs, qui ont fait des articles, j'allais dire neutres, qui présentaient ce qu'on développait, et d'autres comme BFN qui étaient juste là dans la moquerie en disant, vous avez vu, c'est des gens qui n'ont rien à faire ici, on en parle parce qu'on est sympa, mais voilà, bon, finalement ceux qui disaient rien étaient encore plus sympas parce qu'ils n'avaient pas ce petit côté. Donc ça, c'est la gestion en fait de présentation des choses. Si on est en accord avec le système va mettre en avant des gens qui peuvent sortir de nulle part comme Emmanuel Macron. Et le reste après, c'est plus compliqué. Et l'autre chose aussi que j'ai pu constater, c'est que chacun avait la bonne idée, pensait avoir la bonne idée, donc j'en faisais partie hein, aussi, acte, hein, se dire, bah, c'est moi qui ai la solution. Et j'ai pu trouver dans les gens qui étaient du côté de la résistance, de tous ceux qui voulaient faire vivre le mouvement des Gilets jaunes, la multiplication de plein de petits candidats dont je faisais partie, donc ce n'était pas péjoratif, et qu'au final, impossible de faire une unité. Mais avec la question suivante, comment faire une unité quand on prône justement le non-dogmatisme des partis? Donc du coup, ça, je n'ai pas réussi à trancher la solution, pour le moment, je me suis mis à l'écart, mais c'est ça, à dire que bah, du coup, chacun avait sa bonne idée, Pierre-Paul Jacques voulait faire ci, machin voulait faire ça, et finalement, il y a eu une atomisation de tout ça. Donc comment on gère un projet qui se base sur la liberté individuelle et qu'on met en place avec justement un programme plus dogmatique. Ou alors se résumer à un programme, mais qui malheureusement aujourd'hui n'est pas audible du grand public, se dire bah, on va mettre en place une démocratie. En fait, le programme, il n'y a pas vraiment besoin d'en avoir un, à part vous dire qu'on vous rend votre liberté pour que vous puissiez vivre dignement et librement, et vous puissiez justement devenir Gérer le pouvoir vous-même. Mais donc du coup, ça aujourd'hui, c'est pas entendable parce que du coup, dès que quelqu'un dit je vais remettre à demain, mais qu'est-ce que vous allez faire? En fait, malheureusement, il y a encore un travail pédagogique à faire auprès d'une grande partie de la population qui espère toujours un homme ou une femme providentielle et qui espère avoir un papa ou une maman pour diriger le pays pendant qu'eux, ils seront tranquilles et chouchoutés. Mais ça, ça marche pas souvent. Et si ça marche, ça marche une fois. Et après, toutes les fois d'après, on se retrouve avec des dictateurs.
Merci.
Oui, bon, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, et c'est aussi pour ça que des gens comme Kali ou moi, et tant d'autres, on essaye de mettre en avant les contenants et non pas les contenus, pensant que les contenus viendront avec le contenant et le système démocratique. En tout cas, c'est très intéressant de voir comment les énergies les plus fortes, comme ont été les tiennes, peuvent se heurter à la manipulation. Parce que je crois que tu as vécu, toi, le passage entre l'anonymisation des parrainages et le fait qu'ils aient supprimé ces parrainages anonymes et qui, bien entendu, étaient un moyen de pression sur les municipalités. C'est bien ça, tu étais passé juste à ce moment-là, non?
Oui, c'est ça. C'est là où j'ai fait même une recherche sur l'évolution des parrainages. D'abord, la première élection, il en fallait 100. Ensuite, ils ont augmenté le nombre parce qu'ils ont vu qu'on pouvait mettre trop de gens. Ensuite, ils ont mis ça public. Donc, ce que tu viens de dire pour faire des pressions. Et après, ils ont inventé un système Hamas. Non, je me suis trompé de bouton, pardon. Et après, ils ont mis un système où ils ont dit, on va donner un temps de parole aux candidats égal à leur représentativité selon les sondages. Donc, comme c'est eux qui fabriquent les sondages, c'est eux qui se mettent le temps de parole qu'ils veulent.
Et ils n'ont peur de rien, effectivement.
Et du coup, ils ont dit que ce serait équitable. Et en fait, non, c'est pas du tout équitable, c'est juste de l'abus de position de dominante, j'allais dire, pour reprendre un langage économique. Et puis, quand j'avais relu dans les recherches sur les parrainages et sur le temps de parole au candidat présidentiel, De Gaulle, la première élection présidentielle en 62, avait dit je n'aurais pas le même temps de parole que les autres parce que je suis le président. Et là, je me suis dit, moi, en bon habitant du 20e siècle, je me suis dit, c'est quand même un salaud, il va se garder le temps de parole comme Macron. Il avait dit, moi, je ne veux même pas parler, les gens savent ce que je fais, je suis président. S'ils ne savent pas ce que je fais, c'est que je suis un mauvais président. Bon, au final, il aura pris 30 minutes d'antenne. Et il a dit de donner le temps de parole à mes opposants, qu'ils aient le temps d'exprimer ce qu'ils veulent dire. Et donc là, eux, ils ont inversé complètement le concept même de la 5e République, comme elle avait été pensée, pour justement s'approprier tous les trucs, mettre les sondages eux-mêmes, et finalement continuer de verrouiller au plus, parce qu'ils savent que le talon d'Achille qui peut faire sauter tout le système, c'est la présidentielle, en un seul morceau, d'un seul coup. Alors, bien sûr, si on prend 36 000 communes, ça marche aussi, mais c'est beaucoup moins sûr et beaucoup plus diffus. Donc, ils ont verrouillé au fur et à mesure. Donc, je ne sais pas quelles règles ils vont mettre en place pour 2027. Mais je pense qu'ils vont encore trouver un truc pour verrouiller un peu plus le système.
Oui, je suis assez d'accord. Alors, on n'aura pas le temps, malheureusement, puisqu'on s'est engagé à te libérer pour 23 heures et qu'on approche de la fin. Doucement, on va laisser la parole à Pascal. Mais il est dommage de ne pas avoir pu t'entendre sur l'aspect économique, puisqu'on a beaucoup parlé de stratégie et des modalités. Ce sera peut-être pour une autre fois, dans une autre émission, si tu nous accordes la joie de ta présence. Pascal, tu voulais intervenir, on t'écoute.
Oui, bonsoir Alexandre et bonsoir tout le monde. Je voulais réagir à ce qu'a dit Chico au sujet de la désobéissance et puis un mot qu'a prononcé Alexandre, le mot de rigolo. On parlait de... j'ai bien compris bien sûr que tu dis qu'il faut jouer avec les lois qu'ils nous pondent. Mais on parlait également de sac oublié, d'alerte à la bombe. Et je sais pas si ce soit rigolo déjà pour l'usager. Quand il y a une alerte à la bombe, bah ça plante le réseau. Et puis, surtout pour l'auteur du gag, qui peut se voir reprocher une infraction et donc être traduit devant un tribunal et condamné. Et puis sinon, je voulais dire aussi, par rapport à la solution qui serait l'élection d'un président de la République, ce que je ne crois pas, je voudrais dire que le président, contrairement à l'ancien régime, n'est pas le roi de France. C'est-à-dire qu'un président élu ne peut pas décider souverainement de tout. Il est quand même, il évolue en fait dans un système fermé, encadré, qui est celui de la Constitution, qui pose certains devoirs au président, et notamment à l'article 5, hein, le devoir de veiller au respect de la Constitution. Et c'est une tendance en fait quand tous les candidats à la présidentielle, c'est de promettre des choses dont ils ne sont pas maîtres. Par exemple, lorsqu'un candidat, et là ils sont, y en a à l'appel, lorsqu'un candidat va nous promettre une réforme constitutionnelle, c'est quelque chose qui ne dépend pas de lui. Hein, il n'est pas le roi de France, il n'est pas tout puissant. La réforme constitutionnelle est votée par le Parlement. Donc comment s'engager sérieusement sur une chose dont on n'est pas maître? C'est la question que je pose à Alexandre.
Merci Pascal. Alexandre, on t'écoute pour la réponse.
Je vais répondre par la dernière question d'abord. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de se dire déjà que le président a la possibilité de faire un référendum. C'est-à-dire qu'on peut changer la constitution par le Parlement, effectivement, mais le référendum marche aussi, parce que c'est ce qu'avait fait De Gaulle en tordant la constitution pour passer la constitution, enfin l'élection du président au suffrage universel. Il avait dit je vais le faire, et qui va remettre en cause la légitimité du peuple? Si je demande au peuple, qui sera le plus légitime à part le peuple? En fait, c'est aussi de se servir de la constitution pour aller jusqu'au bout de la chose. Je vois que Pascal veut réagir, donc je vais le laisser réagir tout de suite.
Vas-y, Pascal.
C'est sympa. En fait, je t'enverrai en. Je sais pas si on est abonnés tous les deux, je sais pas. Moi, je suis abonné à toi, mais pas réciproquement. Donc, je ne peux pas te l'envoyer par MP, mais à ce moment-là.
Je vais le faire. Je vais m'abonner à toi, comme ça, pour faire l'échange.
Voilà. En fait, cette histoire d'article 11 qu'a utilisé De Gaulle, risque d'être tranchée à la prochaine occasion. Donc, puisqu'en fait, depuis 1962, aucun président de la République n'a tenté une réforme par l'article 11. Et le jour où ça arrivera, cette tentative risque fort d'être tranchée par le Conseil constitutionnel, qui peut dire que la révision se fait par l'article 89 uniquement. Parce qu'il y a eu des jurisprudences depuis le décès de De Gaulle, il y a eu des jurisprudences qui tendent à empêcher un président comme ça de pouvoir réviser par l'article 11. Et ça, donc, je te l'enverrai par DM.
Bien volontiers, et surtout qu'en plus De Gaulle, même à l'époque, savait que ce qu'il faisait n'était pas constitutionnel. Il a dit « je force la Constitution dans son interprétation, parce que je ne vois pas un juge qui remettra en cause un référendum qui est une décision la plus large possible et populaire ». Et en fait, c'est en s'appuyant sur la différence entre ce qui est légitime et constitutionnel et légal, qui encore une chance, et aujourd'hui, pour le moment, l'article 11, ça n'a pas été tranché. Ils ont voulu faire une réforme constitutionnelle à l'article 11 avec le traité européen de 2005. Donc là, finalement, le peuple a dit non, donc ils sont passés par le Parlement quelques années après. Donc, vas-y, on parle.
Ah, c'est sympa, Alexandre. Juste pour préciser que, en fait, ce qu'a fait De Gaulle en 62, pouvait s'entendre comme une possibilité qui était offerte par l'article 11. Parce que l'article 11, il parle de l'organisation des pouvoirs publics. On peut faire un référendum pour l'organisation des pouvoirs publics. Et le fait de faire élire le président de la République au suffrage universel comme ce qu'il a fait, du ressort de l'organisation des pouvoirs publics. Donc là, on pouvait l'envisager. Mais par contre, un président qui va te dire, un candidat élu qui va te dire « moi, je vais organiser un référendum pour un Frexit ou pour instaurer un RIC », est-ce qu'on peut assimiler ça à l'organisation des pouvoirs publics? J'en doute. Hein. Enfin, c'est pas nous qui allons répondre à cette question, ce sera le Conseil constitutionnel, mais j'en doute fortement, quoi.
Non, mais c'est là où après tu as la pression populaire en disant qu'est-ce qui est légitime et pas. Et bon, après le Conseil constitutionnel, je peux te rejoindre, surtout si après Fabius on a M. Ferrand, effectivement, on aura toute une équipe de champions qui voudra surtout que ça ne change pas. Voilà, mais du coup, sur le côté coup de force, c'est possible parce que même De Gaulle à l'époque avait déjà fait un coup de force parce que c'était une interprétation. Et c'était aussi la difficulté de la Constitution de la Ve République qui a été écrite par Debré et De Gaulle, mais qui n'avait pas sur les mêmes visions. Donc il y a plein d'articles qui sont à interprétation variable avec un magnifique en même temps qu'on interprète par la suite en fonction du fort du moment. Donc du coup, de ce côté là, si moi donc je reste persuadé qu'on peut faire encore un petit coup de force en disant je mets ça, qui va être contre qu'on demande la volonté du peuple. Si les juges se mettent là-dedans, je pense que ces juges auront quand même des complications à expliquer qui sont gardiens de quoi? Du gardien de la volonté populaire, mais ils vont contre la volonté populaire. Donc après il y a un combat sur la légitimité, comment faire passer les choses, et aujourd'hui malheureusement, pour ce coup-là, ce serait heureusement, on est dans un régime d'opinion plutôt qu'un régime de réflexion. Donc, du coup, on peut faire pencher les opinions dans un sens ou dans un autre. Mais après, ça, c'est une analyse, parce que sinon, la voie politique ne me semble pas la plus facile, en tous les cas, pour mettre ce qu'on veut, ce que j'aimerais mettre en place, c'est ce qu'on est beaucoup à vouloir comme démocratie. Mais c'est une voie qu'il ne faut pas exclure non plus. Sur le reste, sur les blagues et les gens qui peuvent faire des actions qui cassent les pieds à tout le monde. Oui, ça casse les pieds à tout le monde, je suis bien d'accord. Mais enfin, vu l'état des métros parisiens et de tous les transports ils sont tout le temps en retard pour pas grand-chose. Là, au moins, il y aura peut-être une utilité. La deuxième chose, c'est que c'est aussi, ça montre aussi l'aberration des messages oxygènes qui passent régulièrement. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que ces actions-là sont faites, ils vont arrêter de nous casser les pieds pour dire on met des périmètres de sécurité pendant 2 heures parce que les 10 mineurs vont mettre 3 heures à arriver. Ça ne protège pas la population. Donc, je rappelle que ces messages oxygènes qui paralysent déjà les transports en commun et avec des interventions de plusieurs heures sont zéro au niveau sécurité. Donc là, c'est peut-être aussi un moyen de proposer, en dehors de quelques inconvénients sur une journée ou deux, c'est de mettre peut-être une prise de conscience des mesures qui réellement protègent la population en cas d'attentat à la bombe, de volonté d'attentat à la bombe. L'autre chose pour la personne qui ferait le canular ou la blague, justement, la personne peut être masquée. Donc du coup, elle peut être masquée depuis la crise Covid pour protéger les voisins. Donc avant qu'on la reconnaisse, c'est compliqué. Et puis aujourd'hui, si on ne veut pas être reconnu, c'est beaucoup plus facile qu'il y a quelques années. Donc sur ça, je fais confiance aux gens qui voudraient faire des canulars de savoir se protéger. Donc et après, du coup, c'est de savoir derrière. Donc je prends les transports en commun, mais ça marche aussi pour les aéroports. Quand j'avais travaillé à Roissy, là, ça leur faisait peur que l'aéroport soit coincé par une grève. À l'époque, là-bas, il faut 4 camions pour bloquer l'accès à tout l'aéroport et de se dire que ça leur coûte des millions d'euros. Ils disaient combien ça coûte aux entreprises. Donc en fait, c'est l'attaque au portefeuille, c'est de les attaquer au portefeuille. Voilà, je te laisse réagir, Pascal.
Ouais, merci. En 2017, j'étais tombé par hasard sur Internet sur un article où c'était Macron, donc président, qui parlait. Il était dans une conférence sur la sécurité, je ne me rappelle pas du tout laquelle, mais j'avais lu donc Macron qui expliquait en fait devant le parterre de gens qui étaient là, qui expliquait que les moyens de contrôle de la population était tel que de contrôle informatique, etc., était tel que le peuple n'en avait même pas idée et que on n'allait pas, bien sûr, révéler donc là devant ce parterre quels étaient ses moyens pour ne pas justement que le public ait connaissance de ça. Par exemple, quand on regarde, tu sais, les vieux films policiers des années 80 et tout, où on voit on voit les voyous on va pas nous dire dans les films que qu'il existe les interceptions téléphoniques même dans les cabines publiques, et ça on nous le dit pas dans les films. On nous montre le voyou qui va téléphoner d'une cabine comme si c'était ça allait garantir son anonymat, etc. Et je me rappelle aussi d'une petite anecdote. Je me rappelle une fois, je sais plus pour quel fait divers, on avait réussi à retrouver l'auteur d'une lettre. Le mec avait tapé une lettre sur Word, sur son ordinateur, il avait envoyé cette lettre, etc., et on avait réussi à retrouver l'auteur à partir de la lettre. Donc,
oui, alors voilà,
on n'a pas idée des moyens comme ça de contrôle de la population à la disposition de nos gouvernants, quoi.
On est bien d'accord. Maintenant, moi, je voulais revenir justement sur votre échange et effectivement le fait de pirater le système, comme je l'expliquais tout à l'heure, par soit le sabotage, ce dont vous parlez, hein, c'est-à-dire que tout simplement laisser un sac dans une gare ou un aéroport pour l'immobiliser, c'est du sabotage. Faire du piratage par la fourberie, c'est bon, Chico, je pense qu'on a compris, tu peux te détendre sur ton émoticône, ça n'a pas grand intérêt.
Moi, je vous dis pas d'arrêter de parler, donc je fais ce que je veux quand même. Souffrez de voir des émoticônes, monsieur. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette remarque? Moi, je veux bien être agréable avec vous, à vous écouter.
Donc, personne ne te force à écouter, Chico, tu sais, tu peux tout à fait partir, il n'y a pas de problème. J'ai déjà été très gentil de te laisser monter avec un compte cadenassé, donc bon, il faut arrêter. Si tu veux prendre la parole, tu lèves la main, on te donne la parole, tu apportes une contradiction, mais bon, voilà, on n'est pas à la cour de récréation, c'est bon, on essaie d'être entre adultes argumentés. Donc, je disais que ce principe de piratage qui consiste à faire de la fourberie, comme on l'a vu avec l'émission de radio que je prenais en exemple, ou le sabotage, comme l'explique Alexandre, je pense que ça n'a pas d'intérêt au coup par coup. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça ne fait que gêner la population générale qui est déjà suffisamment confrontée aux problématiques générales. Par contre, c'est quelque chose qu'il faut peut-être réfléchir dans un cadre d'action massif, puisque aujourd'hui, on se rend bien compte que les manifestations, les mouvements déclarés et légitimes, normalement, sont pris par une répression telle qu'il n'est plus possible de faire valoir son droit libre à la manifestation sans risque soit son intégrité physique, soit sa condition sociale ou économique. Et du coup, le système étant ce qu'il est, s'il y avait une volonté massive de la population de dire « on en a marre » et on ne peut plus l'exprimer de façon conventionnelle tel que normalement devrait le pouvoir, eh bien, effectivement, on va rentrer dans une forme de sabotage, de piratage par le sabotage. Pour simple, comme l'explique Alexandre, on devient tête en l'air, c'est-à-dire qu'on va dans un aéroport, puis merde, c'était pas aujourd'hui que je devais prendre l'avion, et finalement, je repars précipitamment parce qu'aujourd'hui, je dois travailler, et en partant précipitamment, j'oublie mon sac. Ça pour plein de choses, donc on prend malgré tout un risque, hein, bien évidemment. Mais si cela est fait de façon massive, parce qu'un minimum coordonné dans une temporalité définie, ça va mettre en quelque sorte le système à défaut, de la même manière que si en parallèle de cela, eh bien, sur les médias ou l'auditoire peut avoir un minimum la parole, on est dans cette pratique de la fourberie, comme j'expliquais, c'est une multiplication des actions qui rend finalement le système faillible. Si c'est fait du coup par coup, à part effectivement signifier que ça peut marcher et embêter un petit peu les autres citoyens, c'est quelque chose qui me semble un petit peu compliqué. Vas-y, Pascal.
Ouais, je voudrais revenir sur CIS, on a cité CIS, pour dire que, en fait, le système repose sur notre consentement. C'est parce que nous allons aux urnes, c'est le fondement doctrinal de la souveraineté nationale. C'est Yes qui a dit les citoyens qui se nomment des représentants. Donc c'est quelque chose de volontaire. On va nous-mêmes glisser un papier dans l'urne et à partir de ce moment-là, donc on a des représentants et après on peut se plaindre pendant 5 ans de leur exercice du pouvoir. Et on a parlé aussi tout à l'heure, enfin je vous ai entendu parler de citoyens. Et ça, je pense que c'est surtout pour le décorum. Parce que quand on regarde l'article L62 du Code électoral, ou quand on regarde l'article 4 de la Constitution, on ne parle pas de citoyens, on parle d'électeurs. Donc, nous sommes surtout et avant tout des électeurs, des gens donc, qui vont à l'urne poser un papier en disant « Nous, on ne veut pas exercer la souveraineté, on veut que ce soit vous qui l'exerciez à notre place. » Et donc, pour sortir de ce système, moi, il me paraît évident de commencer déjà par arrêter. Ça, c'est là. Et c'est une vraie forme de résistance, plutôt que de déchirer sa cœur mais de ne pas aller aux urnes, ce qui aura pour effet de décorner gravement leur légitimité à nous gouverner.
Et là aussi, ils sont déjà plus légitimes, Pascal. Ils n'ont plus aucune légitimité, ils sont minoritaires. Tu prends le nombre d'électeurs lors des premiers tours, c'est dérisoire, c'est pitoyable, et ça ne les empêche pas de se présenter comme étant légitimes. Il y aura toujours 2 crétins pour aller voter pour eux. Et à partir du moment où ils auront 2 crétins, ils seront toujours en train de dire « j'ai obtenu 55% des voix ». Voilà.
Tu sais, oui, excuse-moi, je te laisse.
Mais en fait, c'est ça le souci. J'entends bien, moi je tiens le même discours que toi, c'est que participer à cette escroquerie, c'est en être le complice. Je suis bien d'accord, mais tu auras toujours des personnes qui vont vouloir participer à cela parce qu'ils sont partisans d'un camp, d'une idéologie. Donc il y aura toujours, et ce n'est pas parce que cette quantité sera faible qu'ils se considéreront comme illégitimes, en tout cas qu'ils se présenteront comme illégitimes. Le seul moyen de pouvoir les confronter à cette illégitimité qui est la leur, c'est d'organiser en parallèle, et ça c'est le principe de la substitution pour laquelle moi je suis extrêmement favorable, c'est d'organiser un système qui recueillera plus d'approbation, ça va prendre du temps, mais un système qui recueille plus de participation et d'approbation, là, serait de nature à montrer qu'ils ne sont pas légitimes. Votre système électoral a recueilli 20 millions de participants. Le système de vote, donc démocratique, lui, a eu une participation de 25 millions. Qui est le plus légitime ? Là où la population française a participé à hauteur de 25 ou 30 millions de personnes, ou le système qui a été soutenu par 15-20 millions. Là, il y a vraiment de quoi contester leur légitimité. Mais tant qu'il n'y a pas quelque chose à mettre en comparatif, tu auras tout le temps quelqu'un pour participer et ils utiliseront cela.
On l'a eu en fait de 2017 à 2020 aux législatives, donc à deux élections législatives, en 2017-2022, on a eu plus d'abstention que de participation. Oui. Autrement dit, voilà. Et ça a changé malheureusement il y a quelques mois, en 2024, où 30 millions de personnes ont été aux urnes pour se nommer des députés. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, depuis 62, depuis ce fameux référendum par l'article 11 de De Gaulle, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, le système repose sur le consentement du peuple. C'est le peuple qui va mettre un papier dans l'urne, qui fait fonctionner la machine. Et depuis donc ce qu'a fait De Gaulle en 62, et qui d'ailleurs n'était pas prévu en 58. En 58, le peuple a adopté avec le président qui était nommé par le Parlement, et non pas au suffrage universel. Donc il y a eu, si tu veux, une entourloupe du peuple hein, qui, 4 ans auparavant, il avait dit oui pour autre chose. Quoi. Il n'avait pas dit oui pour... Bref. Et ce qui se passe, en fait, depuis cette élection au suffrage universel depuis 62, c'est que le système repose sur 2 piliers. Auparavant, il ne reposait que sur un, hein, l'élection de l'Assemblée nationale, et aujourd'hui il repose sur deux. Et donc de 2017 à 2022, on avait le pilier de l'Assemblée nationale qui était fragilisé, et on avait, bon, traditionnellement, hein, depuis au moins De Gaulle, on a toujours eu une forte participation à la présidentielle, mais aujourd'hui, donc depuis 62, depuis que ce deuxième pilier existe, en fait, il ne suffit pas pour faire tomber le système de s'abstenir à l'une ou l'autre des élections, mais aux deux en même temps. Et vu que donc le système repose sur notre consentement, ben, on peut très bien décider, nous, le peuple, hein, sans demander la permission à ces messieurs, on peut très bien décider de nous constituer nous-mêmes, sans assemblée constituante, sans chichi, simplement en adoptant. Alors là, je suis d'accord avec vous tous, vu que la plupart des gens sont bêtes et disciplinés, ils se contentent d'aller à l'urne quand ils sont sifflés et mettre un papier dans l'urne, c'est pas gagné d'avance. Mais par contre, c'est la solution que je vois. Voilà.
Mais je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, ça sera ma dernière question à Alexandre, qui répondra peut-être aussi à ton intervention. Après, je lui laisserai bien entendu le mot de la fin. Quand on parlait tout à l'heure, quand vous parliez tout à l'heure des programmes et du fait que les personnes qui se présentent aux élections ont X propositions et ainsi de suite, et que Pascal exposait le fait que, bah, de toute façon, il peut y avoir des contraintes structurelles même à la République pour pouvoir appliquer ces propositions. Et d'ailleurs, on en a un très bel exemple dernièrement avec quelqu'un qui fait 300 propositions, mais qui sont dans une incapacité réelle d'application au vu de la structure de la France, de son appartenance à l'Union européenne et de bien d'autres faits. Et en fait, j'aimerais savoir ce que tu penses du principe d'avoir un candidat qui se prétendrait démocrate, qui n'aurait qu'une seule proposition finalement à pouvoir présenter, qui est celle d'organiser un processus constituant sur, peu importe, hein, sur un an et demi, 2 ans, de manière à rendre véritablement au peuple le pouvoir qui lui est normalement légitime, celui de décider d'une constitution permettant ensuite d'organiser la vie politique, mais au sens noble du terme. Voilà, et puis je te laisserai clôturer le space avec ta dernière intervention, Alexandre, je t'en prie.
Sur la question de, on dit on n'a qu'un seul truc de programme et ça va prendre le temps qu'il faudra, ça ne peut pas marcher, parce que du coup, il faut diriger le pays et diriger toutes les institutions le temps que ça se mette en place. Donc soit tu as un programme le temps que ça se mette en place, soit tu arrives déjà avec la chose et la première chose que tu fais, tu dis ben voilà, on fait le, donc il faut arriver avec quelque chose déjà d'à peu près construit pour dire écoutez les amis, vous allez reprendre le pouvoir dès que j'arrive. Parce qu'après, ça complique toujours. L'autre chose sur la légitimité, pour revenir sur le débat qu'il y a eu, il y a Macron qui a été élu, c'est un humoriste qui a dit ça, j'ai trouvé ça drôle, mais j'aime bien le reprendre du coup. Qu'est-ce qui est le plus légitime? Macron élu avec 20% des suffrages ou Poutine avec 90% en ayant bourré les urnes? Voilà, le débat reste ouvert. Mais du coup, c'est-à-dire que chez nous, ils se cachent même plus, en fait. Ils disent, on représente personne, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que même dans les gens qui se déplacent voter en dessous, des fois, du seuil du nombre de 50% de participants, ils arrivent encore à dire que même ça, c'est pas grave. Ils ont même pas besoin de 50% des voix de ceux qui sont déplacés. Donc, c'est aussi un vrai problème. Ils disent, on va rester comme ça. La preuve qu'on peut encore vivre aujourd'hui, c'est que quand Macron a fait la dissolution, pendant longtemps, on a eu les mêmes personnes. Premier ministre, toujours Gabriel Attal. Braun Pivet, toujours à l'Assemblée nationale. Larcher, toujours au Sénat. Et Ursula von der Leyen, toujours à l'Europe indirectement. Donc, en fait, on peut voter ce qu'on veut. Ils disent, on va faire comme on a envie. Donc, ça ne change pas grand-chose. Donc, sur le côté, pas aller voter, moi, j'aurais pas dit ça il y a quelques années, mais de plus en plus, hein, c'est que je fais une distinction entre les deux parce qu'effectivement, il y a deux piliers. Je dis, il y a une carte à jouer pour l'élection présidentielle qui peut se tenter s'il y a quelque chose qui fonctionne avec un candidat réellement démocratique et qui tente sa chance. Encore, le système l'autorise à tenter sa chance, deuxième chose. Et si dans le cas contraire, ne pas aller voter. Et puis pour les législatives, là, c'est surtout pas aller voter parce que chaque vote en plus permet une économie d'1,60€ par an. Durée du mandat par annuel, parce que les partis politiques, c'est de l'argent qui se mettent pas dans la poche. Et les partis politiques, si on les asphyxie financièrement, au bout d'un moment, ils vont plus avoir d'intérêt à résister, parce que c'est juste une machine à ponctionner notre pognon. Donc, du coup, si on leur dit, bah, maintenant, les 1 million, 2 millions, 3 millions, 20 millions de votants que vous avez eu, fois 1,60€, bah, vous en avez plus quelques centaines, la fin du mois va être plus compliquée de vivre sous les ordres de la République en détournant notre pognon en bande organisée. Parce que je rappelle que tous nos beaux personnes des partis politiques, quand il a fallu s'amnistier sur la gestion des financements des partis politiques, 100% de gens étaient d'accord, hein, voilà. Donc une sacrée hypocrisie, mais quand ils s'assiedent nous taper dans la caisse, ils sont là. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à toutes les questions de Pascal et si alors, ce sera un mot de la fin génial, mais voilà.
Moi, je voulais revenir sur ce que tu as dit, parce que quand je parle, moi, d'avoir qu'une seule proposition qui est de faire un processus constituant, ça, je vais prendre l'exemple très simple, un candidat se présente à l'élection présidentielle et dit, voilà, moi, je ne fais aucune proposition
je vais réformer ci, je vais faire ceci, je vais faire cela. Je ne propose qu'une seule chose, je vais organiser un processus constituant, donc qui prendra le temps qu'il faudra, pour que la population soit consultée dans son ensemble, à travers des ateliers constituants qui se feront de façon d'abord locale, et ainsi de suite. Enfin, il explique comment est-ce qu'il veut mettre en œuvre un processus constituant, et puis, pour faire simple, si on prend les prochaines élections, on a l'élection présidentielle 2027, et puis après, on a les départementales et cantonales en 28, en 2028, les régionales en 2028, les européennes en 2029 et les législatives en 2029. Ça veut dire que de toute façon, dans un système qui se veut normalement représentatif, le président est élu pour organiser un processus constituant qui normalement le rendra possiblement illégitime si la constitution nouvelle veut qu'il n'y ait pas de président élu au suffrage universel. Et du coup, pendant ce temps de processus constituant, le système qui était en place précédemment, c'est-à-dire une assemblée, des ministres, un premier ministre, des ministres, tout cela reste en place. En fait, je ne vois pas en quoi le système... parce que le président est nouvellement élu et qu'il organise un processus constituant. Ce processus constituant, simplement, est fait pour venir remplacer le processus qui est en cours. Et une fois que le processus constituant est achevé et voté, eh bien, on passe à un nouveau système qui redéfinira justement comment se feront les élections, comment tout cela va se mettre en place. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à cela.
Il y avait... Vas-y Pascal, comme ça je fais les deux d'un coup.
C'est gentil. Je ne pense pas que les gens en fait, soient sensibles à ce genre d'argument de la proposition unique. Les gens, c'est triste, mais ils veulent savoir pour le pouvoir d'achat, pour l'emploi, et puis surtout pour le deal originel, qui est la sécurité. Parce que c'est ça, à la base, on nous dit...
Non mais Pascal, je me permets. J'ai bien conscience que cette proposition, elle n'est pas réaliste, elle est utopiste à l'instant T où on en parle. Qu'on soit bien d'accord, j'en suis pleinement conscient. Mais si nous sommes là, c'est pour imaginer un petit peu ce qu'un monde normal devrait être. Et imaginons que après tout le travail fait pour justement faire émerger la réflexion et le principe démocratique, on ait une capacité à approcher le pouvoir par ce prisme-là. La seule question que moi j'émets, c'est dans cet idéal, finalement, le bon candidat démocrate, ce serait celui-là. Après, bien entendu, aujourd'hui, si quelqu'un se présente avec cela, il ne fera absolument rien. On est bien d'accord, Pascal, et je ne suis pas sur ce côté terre-à-terre sur lequel tu viens réagir. Je suis vraiment sur le prisme, dans une fonction présidentielle, un président qui voudrait, dans la cinquième, transférer le pouvoir à une première démocratie, normalement, sa seule proposition devrait être celle-là. Et donc, encore une fois, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir l'avis d'Alexandre, parce que si toi, tu es là à chaque space que l'on fait, Alexandre ne l'est pas. Voilà.
Ouais, merci. Merci beaucoup pour le compliment. Ce que tu dis, c'est l'erreur fatale qu'a commise Clara Eger. Clara Eger, lorsqu'elle a désiré se porter candidate la dernière fois, elle a misé sur un truc, le RIC. Et depuis, elle s'est ravisée, parce que si tu regardes Solutions démocratiques, maintenant, tu as toute une panoplie de propositions. Quoi. Je sais bien que c'est utopiste ce que tu racontes, mais c'est hélas la réalité. Les gens s'intéressent au pouvoir d'achat, à l'emploi, et donc au deal originel de la sécurité, parce que c'est ça à la base. À la base, donc on nous dit, en échange, nous, on va assurer votre sécurité, et en échange de ça, eh bien, vous consentez à avoir moins de liberté. Et par contre, ce qu'on ne nous dit pas, et je pense qu'Alexandre ne me contredira pas, enfin j'espère, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que l'insécurité, elle est créée par eux-mêmes. C'est eux qui créent l'insécurité, c'est eux qui nous mettent dans des situations pas possibles, et qui ensuite, on doit être dans une sorte de, de pathologie mentale, et on en redemande plus. Ils nous placent dans une position d'insécurité, et nous, on va leur dire, écoutez, on a peur, donnez-nous plus de police, donnez-nous plus de sécurité, parce qu'on a peur, quoi. Alors que c'est eux qui créent cette peur principalement, quoi.
Donc, sur le dernier point, je ne vais pas contredire Pascal, je pense qu'effectivement, la plus grosse de la peur et la plus grosse des problèmes viennent de ce que crée l'État pour nous maintenir sous domination, et donc créer le problème pour pouvoir le résoudre derrière. Donc on est chez le pompier pyromane. Et l'autre chose aussi, c'était sur, effectivement, dans la solution idéale que tu as décrit, je suis tout à fait d'accord, il ne devrait y avoir que ça. L'expérience de Clara Eger, comme l'a rappelé Pascal, effectivement fait partie des causes de ce que ça n'a pas marché la dernière fois. Et après, la chose dernière, c'est qu'une fois de plus, pour ça, pour la stratégie présidentielle, il faut une fois de plus hacker le système. c'est-à-dire arriver avec des propositions annexes, etc. Je donne un exemple que j'aime beaucoup, c'était quelqu'un à San Francisco qui s'était présenté à la municipalité, et lui, sa cause à lui, c'était la cause des gays. Voilà, il voulait faire quelque chose pour la communauté gay, il avait mis que ça dans son programme, il a dit « bon, c'est bien, t'es dans les années 70, donc faut que ça marche ». Bon, bah, quand il s'est présenté, il s'est ramassé, personne n'a voté pour lui. Il a pris les leçons, la fois d'après, il a regardé qu'est-ce qu'intéresse les gens de San Francisco. Il s'est rendu compte que le problème numéro un des gens de San Francisco, c'était les merdes de chiens sur les trottoirs. Du coup, dans une de ses conférences de presse, il a reculé, il a marché dans une merde de chiens, il a dit, écoutez, moi, ma priorité, c'est que vos trottoirs sont propres, si vous m'élisez. Il a été élu, il a tenu parole, et les trottoirs étaient propres. Et à côté de ça, il a pu dérouler son programme sur la communauté gay, etc. Parce qu'en fait, les gens n'étaient pas spécialement contre, c'est que les gens n'en avaient rien à faire, en fait. Donc, en fait, par contre, ce qui les intéressait vraiment, c'était les merdes de chiens sur les trottoirs. Donc, en fait, c'est de trouver des sujets qui intéressent les gens, régler ces problèmes, mais surtout à côté, dérouler le reste. Parce que la plupart des gens, soit ça ne les intéressera pas, soit ils auront peur de la responsabilité que cette liberté implique. Et du coup, c'est de trouver le moyen d'hacker le système en disant, bah, il y aura cette proposition parmi d'autres. Puis, une fois qu'on y est, c'est de trouver la personne capable dans les gens de confiance de la résistance, de se dire, bah, cette personne n'oubliera pas cette proposition, que c'est la proposition principale qui nous intéresse et pas toutes les autres qui sont des mesures cosmétiques pour gagner l'élection. On peut te dire aussi, hein, nettoyer les caca de chien sur les trottoirs, il a tenu sa proposition. Mais donc voilà, c'est de savoir comment on intervient entre honnêteté intellectuelle, etc., et aussi efficacité pour pouvoir hacker le système.
J'en ai pleinement conscience. Encore une fois, ce n'était pas le propos. Je pense très sincèrement que l'infiltration du système, le hacker, comme vous dites, par l'élection, personnellement, je pense que c'est une utopie autant que ce que je présente comme programme. Pourquoi ? Parce que le système détenant tous les pouvoirs, il est très compliqué d'imaginer qu'il se laisse hacker. Je pense qu'il s'effondrera de lui-même, mais que des candidats puissent le hacker, en tout cas sous la forme dont est organisée aujourd'hui les élections, me semble vraiment impossible. Après, je comprends parfaitement ce que vous avez décrit, toi et Pascal, et là où j'ai un problème presque philosophique, c'est que comme le dit l'adage, Dieu se rit des personnes qui se plaignent des conséquences dont ils chérissent les causes. Et finalement, quand on voit les conséquences du système électoral tel qu'il est pratiqué avec justement la perte de sens des valeurs dans le principe électoral, eh bien c'est ce qui m'amène à penser qu'aujourd'hui, ce que j'explique est évidemment non, Pascal, par contre, là, il faut absolument qu'on libère Alexandre, donc on va en rester là. Donc, c'est vraiment inapplicable. Mais par contre, ça en dit beaucoup sur, justement, la problématique aujourd'hui de ce système. On va, du coup, parce qu'on a déjà débordé de 15 minutes, donc on avait promis de tenir 2 heures. Je vais te laisser clôturer le space, Alexandre, de ton côté, avec une dernière prise de parole. Le message que tu voudrais nous transmettre avant que l'on clôture ce space.
Bon, bah, le message, c'était merci, c'était très sympa. Je pense qu'on a discuté de beaucoup de choses, qu'on aura peut-être l'occasion d'en refaire. Pascal, si tu veux, on peut continuer le débat. Je vais m'abonner de ton côté pour te suivre, pour qu'on puisse continuer le débat pour les choses que tu n'auras pas eu le temps de dire. Et que ça faisait plaisir de voir qu'il y a plein de gens avec qui je peux discuter sur Twitter, qui sont là ce soir, donc qu'on n'a pas tous pris la parole. Mais donc, un moment agréable d'échange, et je pense que c'est par des choses comme ça qu'on peut faire évoluer les esprits. Là, on est dans un cercle de gens convaincus, ou en tous les cas, des gens qui veulent se convaincre, qui veulent chercher des solutions. Mais après, c'est de savoir comment on essaie. Voilà. Mais en tous les cas, le mot de la fin, ce sera juste merci pour ce moment convivial.
Ben merci à toi Alexandre de ta disponibilité et de ces échanges. Et Stéphane également donner un dernier mot qui normalement est en co-hôte hein, et même généralement l'hôte du space mais qui ce soir avait un petit souci technique pour monter. Donc je te laisse donner ton mot de la fin Stéphane et puis clôturer avec le programme à venir.
D'accord, avec plaisir. Je te laisserai clôturer sur le programme à venir, sachant que lundi, on a une petite coquetterie dans l'horaire, c'est 19h, donc notez bien lundi 19h pour Jogo Valérie. Juste un petit mot traditionnel de remerciement à Alexandre. J'ai bien noté que la safe place dans laquelle il se trouvait permettait d'avoir quelques échanges, donc je réitère ma réinvitation, puisque j'aurais aimé pouvoir discuter aussi sur d'autres sujets, notamment des sujets qu'on n'a pas du tout abordés sur l'économie, la création d'air, parce que je sais qu'il y a des prises de position à ce niveau-là. Donc, je me permettrai d'ici quelques semaines ou quelques mois de te relancer gentiment si tu veux bien nous accorder encore un petit peu de ton temps pour que l'on puisse développer des sujets qu'on n'aura pas pu développer aujourd'hui. Et je te remercie encore et je te souhaite bon courage pour l'émission de demain. Et de cette disponibilité et cette ouverture d'esprit dont tu as fait preuve. Et je remercie tous nos auditeurs. Kali, je te souhaite une bonne nuit. Je vais te laisser conclure et je vous dis tous à lundi.
Merci Stéphane, encore merci Alexandre. Et effectivement, lundi, nous aurons un horaire particulier puisque le space consacré à Valérie Bugot commencera à 19h. spécifiquement. Donc lundi 19h pour le space de Valérie Bugot, mardi 21h pour Paul-Antoine Martin. La semaine d'après, nous aurons mardi 21h avec Jean-Philippe Hubert. Et puis la semaine suivante après, on aura le mardi 25 février où vous serez tous conviés. On va aborder l'association des mairies démocrates de France que Stéphane et Démocratie Directe sont en train de mettre en œuvre. On vous expliquera tout cela et on attendra justement vos réactions et votre participation sur ce sujet-là. Et puis juste derrière, le mercredi 26 février, nous aurons Jérôme Rodriguez pour aborder bien sûr la question des Gilets jaunes et du principe démocratique qui s'était posé à ce moment-là. On vous remercie encore une fois pour votre présence et aux intervenants bien entendu. On vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, passez le meilleur temps possible avec vos proches, avec vos amis. Propagez l'information que la démocratie n'existe pas mais peut exister. Voilà, merci à tous, bonne soirée et à bientôt.
Mercy, 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 mercy. Thank you.